Qu'est-ce que la solidarité? Vous avez 2 heures pour rendre les copies. Les copies blanches, à l'instar des bulletins blancs, tiens, seront considérées comme nulles. Allez, allez, pas de panique, on va essayer de vous aider un petit peu quand même ce soir et de découvrir nous-mêmes, grâce à nos invités, les différentes facettes de cette réalité mouvante, la solidarité internationale. Du latin solidus, nous dit le dictionnaire, la solidarité c'est, ouvrez les guillemets, l'interdépendance des débiteurs entre eux. Ouch ! On l'a bien compris, la solidarité n'est donc pas en tout cas la compassion, la charité de certains envers les autres, mais bien une relation mutuelle réciproque. Tout le monde apporte quelque chose à la table solidaire, ou peut-être que chacun apporte ce qu'il peut. Ça vous va ? Pourtant, quand on parle dans les médias, ici et là, surtout ici, de solidarité Nord-Sud, par exemple, on entend autre chose. Il semble alors que la solidarité est due par ceux qui ont plus d'argent, de démocratie, de bien-être, de droits sociaux, à ceux qui manquent cruellement de tout ça, ceux qui sont occupés, affamés, pillés, ou tout simplement victimes d'une suite de mauvaises récoltes, de l'arrivée au pouvoir d'un tyran, ceux qui sont occupés par une armée libératrice ou vengeresse. La solidarité comme une posture morale obligée de l'Occident envers ce qu'on appelait encore récemment le tiers-monde. Qu'ont à nous apporter les peuples ou les individus du Sud, alors ? On tombe vite dans la pensée qui pense bien et les clichés exotiques. Ils et elles nous apporteraient le partage, le respect des anciens, l'amour de la nature, une force de résistance souvent incroyable, le sens de l'accueil, un autre rythme de vie. C'est vrai, c'est faux, ça n'est pas si simple. Nous sommes quelques milliards d'individus sur Terre, tous différents. Hier soir, Manal, la Palestinienne, nous a demandé quelque chose de très précis face à l'occupation israélienne et ses crimes, au mur, à l'arrêt des aides financières européennes. Elle nous a dit « Ne soyez pas solidaires de notre lutte, je vous demande de vous y impliquer ». D'autres points de vue, d'autres demandes, échanges, définitions, n'en doutons pas, avec Zachary, Ida, Seb et Nicolas, nos invités de ce soir, à l'occasion de la semaine de la solidarité internationale. Radio Apple Pie, Emmy Public numéro 98, ça tourne. Radio Apple Pie. Quelle chute surprenante. Eh bien, on a dit qu'on inaugurait désormais une nouvelle formule sur Radio Apple Pie. Ça sera la seconde fois avec une courte partie magazine, courte, je vous rassure, où Pascal, Letty et moi allons nous faire part de quelques impressions. À commencer par Letty qui voulait, je crois, critiquer un homme politique, voire un ministre.
Bah oui, Père Ben. Il n'en fait pas suffisamment comme ça. J'ai lu cette semaine que tel un vilain petit garçon capricieux, il aurait voulu avoir la 4e circonscription de Lyon. Et comme elle n'était pas disponible, il a voulu plus ou moins soudoyer, le président de cette 4e circonscription qui a dit « Bah non, après tout, moi je veux pas laisser cette circonscription-là ». Et voilà, encore une fois, on se dit les ministres, nos hommes politiques qui sont ceux qui soi-disant nous protègent, nous dirigent
et en tout cas nous représentent puisqu'on est censé avoir voté pour eux.
Surtout qu'ils nous représentent, là pour moi ils sont pas du tout représentatifs parce qu'il n'est pas question de faire son petit enfant gâté en voulant avoir quelque chose qui n'est pas à soi. Et en voulant tout faire pour soudoyer un autre. Donc voilà, c'est encore un coup de gueule contre nos ministres.
Bon ben voilà, écoutez, pour changer complètement de ton et avant de passer la parole à Pascal pour une première chronique de bande dessinée, moi je voulais dire du mal d'un type qu'en général on aime bien, qui s'appelle Sanseverino. Et c'est vrai que dans l'ensemble, ses textes sont plutôt pas mal. Le jazz manouche qu'il fait, quoique parfois variétisant, est plutôt sympathique. Il se trouve que dans l'excellente émission de Frédéric Taddeï, Ce soir ou jamais, Sanseverino a interprété récemment une chanson dont le titre est « Cette conne m'ennuie ». Bon, ma foi, pourquoi pas. S'il avait le talent de Brassens, je pense qu'il aurait carrément dit « m'emmerde ». Mais bon. Et j'ai cherché sur Internet des heures de recherche et de travail pour préparer cette émission et je n'ai pas trouvé les paroles exactes. Donc ce que j'ai en mémoire, c'est qu'à un moment donné dans cette chanson, qui en gros le propos, il est dans un bus ou un métro, il a une voisine qui lui déplaît. Il lui a demandé, oui, bah, vous pouvez vous asseoir à côté de moi et tout. Il a le malheur de dire qu'il a regardé son cul pour lui faire plaisir. Alors, on se le fait dire sans Severino, de la part d'un certain nombre de filles. Ça te fait pas plaisir de voir nos culs, te sens pas obligé de faire semblant. Ton regard, on s'en passe largement. D'autant plus que dans cette chanson, à un moment, il dit que cette fille, qui est lectrice de Elle, franchement, je raffole pas de ce magazine pseudo-féministe, mais bon, à un moment, dit « Oh ouais, puis alors, Bertrand Cantat, il exagère, et je lui réponds, occupe-toi de tes affaires. » Je voulais aussi te dire un autre truc sans Severino. Quand une meuf meurt sous les coups d'un mec, je pense que ça concerne toutes les femmes. Alors, c'est toi qui ferais mieux de t'occuper de tes oignons. Voilà. Ça, c'était pour le gars dont je voulais dire du mal. Et là, il y a aussi trois chanteuses, comme quoi... Le machisme et la misogynie ne sont pas loin de là que dans le camp des mecs, puisque le Maximum Couette fait une chanson que je trouve assez pitoyable, où une fille gémit « Ah là là, pour toi, j'aurais renié père et mère, j'aurais renoncé à avoir des enfants, même après trois avortements, enfin bon, etc. etc. » Ce qui nous rappelle, en moins classe, des chansons d'Edith Piaf, « Je me ferais teindre en blonde, je ferais le tour du monde si tu me le demandais. » En moins classe aussi, cette chanson magnifique mais bien triste somme toute de Jacques Brel, Ne me quitte pas, je vous rappelle, l'ombre de ton ombre, l'ombre de ton chien. Pour en venir à Ayo, alors là dans le gémissement, je pense quand même que si les programmateurs de France Inter, qui la passent à peu près tous les jours depuis 6 mois, parlaient l'anglais, je suis pas sûre qu'ils passeraient sans arrêt cette chanson qui dit en substance et en permanence, je suis à genoux, je suis à genoux, je suis à genoux, down on my knees, I'm begging you, I'm begging you, je t'en supplie, reviens, je t'en supplie, je suis à genoux, je suis à genoux. Voilà, et de deux pour les filles, et de trois avec Ellie Medeiros qui récemment a fait une chanson où elle dit, en gros, hein, pareil, je suis désolée, j'ai aussi recherché sur internet, ne croyez pas, je serai ta pute, tu seras mon Mac, je lècherai le trottoir sur lequel tu auras marché. Cogne-moi, cogne-moi, bon bah c'est bien, qu'est-ce que vous voulez? La boucle est bouclée, t'as raison, San Severino, continue, les filles aiment ça. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.
Rien sur Joe Store. Oh, il se contente, il se contente juste. Non, il se contente juste d'utiliser sa véritable identité pour conduire une Porsche à des vitesses non autorisées et les amendes arrivent à son homonyme. C'est tout.
On en reparlera éventuellement à l'occasion. Sur le chapitre de Joe Starr et les femmes, pareil, je propose qu'on se reporte à une future émission.
D'accord.
Voilà, ok.
Coup de gueule, moi
Si tu veux, Pascal.
Bah, contre moi, parce que j'ai pas vraiment de coup de gueule. Donc, comme j'ai pas suivi l'actualité vraiment depuis une dizaine de jours, donc je m'engueule moi-même. Voilà.
D'accord.
Voilà. Eh, mais... Par contre, il m'a semblé que j'ai vu dans les journaux qu'il y avait deux petits bateaux qui arrivaient sur le Havre. Qui sont venus sur le Havre, qui chargeaient un peu de choses un peu fortement désagréables. Et visiblement, c'est passé quand même un peu inaperçu.
Exact.
Donc, c'est quand même, à mon avis, une histoire à suivre de très près. Parce que moi, j'ai connu une chanson dans ma jeunesse qui s'appelait bon, « Les petits bateaux vont-ils sur l'eau avec des ailes ?» Mais là, c'est pas forcément des ailes dans le bon sens. Et tu faisais plutôt pour envoyer les gens au paradis, visiblement. Donc, je pense que c'est une histoire à suivre de très près, quand même, sur le Havre.
Je crois que tu étais déjà un rêveur dans ton enfance, parce qu'à mon avis, ils avaient des jambes. Mais bon, les ailes, c'est joli.
Les ailes, c'est joli, non ?
Ouais, c'est très très joli.
Ce sont des jambes, comment tu
fais ? Les ailes du désir.
À part Jésus, il y a personne qui marche sur l'eau. Donc,
il n'empêche pas que les elfes peuvent faire du bateau quand même.
Ouais, bien sûr. Ouais. Voilà. Et puis au niveau BD, par contre, bon, on va parler de La Perdida ce soir.
Ouais.
Hein, de Jessica Abel, qui est parue aux éditions Delcourt. Alors en fait, La Perdida, c'est l'histoire de Clara, la trentaine. C'est une jeune américaine dont le père a toujours renié ses origines mexicaines. Donc du coup, elle ressent énormément le besoin de découvrir le Mexique et ses racines. Et donc, elle part là-bas. Surtout qu'elle a une fascination aussi pour Frida Kahlo.
Ah, voilà.
On comprend assez, d'ailleurs. Et donc, elle rejoint son ex-petite amie, Harry, au Mexique. Lui, il est plutôt un peu allumé comme mec. Il est un peu perdu dans les brumes de l'alcool aussi. Et ses héros, il faut bien le dire, sont William S. Brooks. Et puis, comment, Jack Kerouac.
Ah oui.
Donc, c'est des gens qui étaient un peu quand même sympas, fort sympathiques.
Talentueux.
Mais un peu allumé. Donc lui est un peu comme ça. Et surtout que les choses se gâtent quand même entre les deux quand Harry comprend vite fait que Clara n'a pas envie de repartir du tout pour l'instant et qu'elle veut rester au Mexique. Donc lui, il dit bon, cela m'a emmerdé aussi. Et donc ça plaît pas du tout. Du coup, ben elle, très vite fait, délaisse tous les amis qu'elle a connus avec lui, les amis occidentaux, enfin immigrés occidentaux, pour essayer de replonger dans le vrai Mexique. Enfin, ce qu'elle estime, elle, le vrai Mexique, parce qu'elle a toujours sa vision américaine, quand même, de la chose, et puis sa naïveté, parce qu'elle est quand même assez naïve de ce côté-là, comme elle ne connaît pas du tout le Mexique, elle a une vision très, très naïve, quelque part. Et donc, du coup, elle rencontre 3-4 personnes, notamment eh ben, un jeune type qui est dealer, qui son rêve, c'est de devenir DJ, un gaucho, mais qui est plutôt intéressé par la gente féminine, mais qui a un super beau discours, donc une fois de plus un peu dans les rêves, et puis surtout de la tchache. Et puis un trafiquant de drogue, un grand baron de la drogue locale, qui lui flash sur elle, et qui va petit à petit, tous ces gens-là vont amener petit à petit une descente aux enfers pour Clara. Et la seule façon de s'en sortir, effectivement, pour elle, ça va être sa famille. Jusqu'à là, elle n'a eu aucun l'amour de sa famille, ou juste là, elle n'a pas du tout sollicité, quoi. Et c'est vraiment un très très beau, un très bel album où Jessica Abel, en fait, nous donne un chef-d'œuvre vraiment sur la quête d'identité et la perte des repères, un peu dans l'esprit de Craig Wasson au niveau des seins. Je ne sais pas si vous connaissez celui qui avait fait Blanquette, hein, chez Casterman, qui est un album sublime. Un espèce de thriller, bon, ça c'est vraiment une espèce de thriller psychologique d'une grande intensité, parce qu'au fur et à mesure que l'histoire avance, il y a quand même une thématique et un épisode un peu policier qui s'installe. Et c'est vraiment un chef-d'œuvre, que ce soit au niveau dessin, noir et blanc, vraiment la psychologie des personnages, même les personnages secondaires, c'est magnifique. Et en fait, j'espère qu'on va découvrir le travail de Jessica Abel au fur et à mesure de cette année, voire l'année prochaine, parce que maintenant, c'est vrai que cette année, ça va être un peu court. J'espère que les éditeurs ont l'intelligence de publier ce qu'elle a fait avant, parce qu'elle a fait des choses quand même assez intéressantes. Une série qui s'appelle Art Babe, qu'elle a publiée de 1993 à 1999. Elle a fait une collaboration aussi avec Ira Glass sur Radio An Illustrated Guide, en fait, qui est assez marrant parce que ça peut nous intéresser forcément. C'est une chronique sur la façon dont est conçue une émission de radio.
En effet.
Donc ça pourrait être très intéressant pour nous, n'est-ce pas ? Et puis, donc ça peut l'être très très intéressant. En fait, l'album, il ne faut surtout pas hésiter à se perdre au Mexique, parce que c'est vrai que pour nous, c'est plus facile dans un fauteuil. Moins dangereux, si tu veux, mais en même temps, on en ressort quand même quelque chose d'assez important au niveau des émotions. Donc c'est un album que je vous conseille, d'autant plus qu'il est vraiment très très beau au niveau de la couverture, avec jaquette. En fait, ils ont fait un album de 260 pages, parce que c'est paru en fait aux États-Unis en 5 chapitres.
Ah d'accord.
Sur une période, en fait, elle a commencé en 2001, elle a terminé en 2005. Et c'est paru en petits chapitres, hein, où, notamment cette série-là a eu certains prix aux États-Unis. Et donc là, Delcourt a sorti ça comme un espèce de roman graphique, avec vraiment les 260 pages, très très bien imprimé, avec une superbe jaquette.
C'est vrai, voilà. Nous qui avons la chance de le voir sur la table de la radio, c'est un bel objet en tout cas, des fois d'avoir
fait. Un petit chef-d'œuvre à offrir sans problème à Noël, à ses amis ou à sa famille. Et je vous dis d'autant plus que bon, on en ressort quand même assez bouleversé par le portrait de cette jeune femme qui a une vision des choses qui ne sont pas forcément ce qui correspond
C'est ça le voyage.
À la réalité, quoi.
Merci Pascal, parce que tu disais que tes chroniques n'étaient pas toujours en liaison avec les thèmes des émissions. Alors que nous, on a remarqué qu'au contraire, chaque fois, tu faisais un effort. Et c'est en rapport avec, je crois, ce dont vont nous parler nos amis ce soir, le voyage, la découverte de différents pays. Et puis, ça nous permet d'avoir encore une petite pensée pour nos amis du Chiapas et de Oaxaca. Carlos, Sofia, Manu du Havre, qui est là-bas. Merci, Pascal.
Voilà, on s'appelle La Perdida, de Jessica Abel, chez Delcourt, et ça vaut 25 euros.
Merci, Pascal.
Merci, Pascal.
Le tour de table est terminé. Rien à rajouter ? Bon, bah après le morceau suivant, on va entrer dans le vif du sujet avec nos invités alors.
Elle passait son alliance, peut-être un peu trop tôt. Bâtir une potence à son poteau. Pas rater la chance à la Picasso. Elle a mis sa robe blanche à sa peau. Elle voulait pas que des filles, mais des bambins partout. Bien grande famille, avec presque pas de sous. Elle a vendu ses quilles et gardé ses fous. Elle achète parmi préservatifs sans trou. Je te le dirai tout le temps, Emma est toujours bien content que tu sois là, Emma. Comme ça en passant, je te le dirai tout le temps. Elle nous donnait 5 sous un par un à la chaîne, puis au moins 5 coups de martinet par semaine. Et je te jure que je m'en fous, j'ai les bleus qui s'effacent, ni tout cuit ni tout doux pour nous tenir en place. Elle nous chante souvent le temps des cerises et le petit vin blanc, les gondoles à Venise. Et v'là maintenant 30 berges qu'elle prépare mes chemises, et toujours la concierge de toutes nos bêtises. Je te le dirai tout le temps, Emma est toujours bien content que tu sois là, Emma. Comme ça en passant, je te le dirai tout le temps. À sa main une bague et le même mari. Sous ses cheveux des vagues font les bigoudis. Sur mon cœur y'a un tag tatoué pour la vie. Une pensée, pas des blagues, je l'aime à la folie. Je te le dirai tout le temps, Emma toujours bien content que tu sois là, comme ça en passant, je te le dirai tout le temps. Yeah, et même bien content que tu sois là. Comme ça en passant, je te le dirai tout le temps. Je te le dirai tout le temps.
Nos invités de ce soir sont des acteurs permanents de la solidarité. Eux n'ont pas besoin d'une semaine pour être solidaires, puisque c'est leur manière de vivre. La solidarité, c'est quoi ? C'est un acte politique fort en faveur des relations internationales équitables, annonce le programme. Et pour nous en parler, nous avons des invités de divers horizons autour de la table. Nicolas du CERASI, centre de ressources pour les acteurs de la solidarité internationale. Tout est dit, croyez-vous ? Eh bien, pas du tout, puisque Nicolas est là pour l'expliquer. Zachary, étudiant en médecine, acteur permanent de la solidarité au Mali avec la RTPS, il vient nous parler de son séjour en France et de son rôle dans la semaine actuelle. Enfin, Sébastien, accompagné d'Ida, de coups de pouce pour les enfants de Daga, habitué de l'émission. Seb vient nous faire part de ses dernières impressions et de ses souvenirs ramenés de son précédent voyage au Mali en septembre 2006. Un invité un peu exceptionnel aussi, puisqu'il y a aussi un ami de Zachary qui est là avec nous ce soir, John. C'est une surprise, il arrive d'Angleterre. C'est un ami d'une dizaine d'années de Zachary. Je pense qu'on aura l'occasion de lui donner aussi la parole, puisqu'il est acteur dans la solidarité en général et il vient en aide pour les écoles. Donc je pense qu'on lui fera quand même l'honneur de lui faire de dire quelques mots. Même si c'est en anglais, et surtout si c'est en anglais pour tous les internautes autour du monde qui nous écoutent. Alors c'est pourquoi la parole ce soir est à l'expression de la solidarité avec nos invités. Merci à tous d'être avec nous ce soir.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors l'accueil, la coutume et le respect voudrait, Zachary, qu'on te passe la parole en premier puisque tu viens du Mali et non sans mal, on en parlera tout à l'heure. Mais pour des raisons explicatives, on va quand même commencer par Nicolas, puisqu'il représente ce soir le Cerasi qui, en tout cas en Haute-Normandie, organise depuis la deuxième année, c'est ça ?
Coordonne
la semaine de la solidarité internationale.
Donc en fait, nous coordonnons depuis la deuxième année au Havre et depuis la première année en Haute-Normandie. Mais ce qui est important de préciser, c'est que le Cerasi vient au départ d'une association qui s'appelle Hardy, qui est une association qui travaille à Madagascar, qui a organisé la semaine de la solidarité internationale au Havre depuis l'année 2001.
D'accord.
Et qui l'a coordonné ensuite en collectif avec deux autres associations qui sont le CCFD et Cap Développement depuis 2003.
Et comment ça s'est... Bon, j'imagine que c'est assez logique. Tout le monde peut intervenir s'il le souhaite, hein, là-dessus, évidemment. Les associations, en général, évidemment, sont appelées à se rencontrer de temps en temps, à travailler ensemble, surtout quand c'est autour de la solidarité, d'un travail humanitaire. Mais concrètement, autour donc d'abord de Hardy, puis comme tu l'as dit, d'autres associations, il y en a beaucoup maintenant. Comment ça s'est fait? Parce que j'ai vu qu'il y avait France-Palestine Solidarité, Amnesty International, Cap Développement. Enfin, on ne va pas les citer toutes. Elles seront sur le site de Radio Apple Pie et puis en lien de toute façon avec le site du Cerasi. Une vingtaine d'associations, ouais. C'est ça?
Au Havre, hein, je parle. Au Havre et dans toute la région, 80.
À d'accord, peu près. Oui, c'est assez impressionnant. Et c'est donc, pas trop difficile à coordonner, justement, tout ça?
Pour tout vous dire, c'est assez compliqué, surtout qu'au niveau de la coordination régionale, c'est la première année. Donc oui, c'est pas encore parfait, mais ça a donné quand même l'envie aussi aux collectivités de s'impliquer de plus en plus, notamment la région de Normandie.
Oui, alors c'est bien parce que c'est vrai que... On a vu que tu pourras peut-être nous dire dans quelle mesure, sans rentrer dans les détails, mais ça implique les différentes collectivités. Donc, à la fois le département, la région et l'État participent.
Le département, la région, la ville du Havre, un petit peu.
D'accord.
La DRDGS, qui est donc une délégation du ministère de Jeunesse et Sport. Et ainsi que le CRID, qui est l'organisateur de la semaine au niveau national, qui donne ce qu'on appelle un coup de pouce. Comme l'association, qui donne un coup de pouce aux organisateurs, aux collectifs organisateurs.
D'accord. Et alors, au Cerasi en tant que tel, parce que toi tu les représentes ce soir, toi Nicolas, tu es salarié du Cerasi?
Je suis salarié du Cerasi depuis 2001. D'accord. C'est un emploi aidé, subventionné par le conseil général et régional.
Et tu as un rôle précis, j'imagine tu fais beaucoup de choses. Mais...
Voilà, donc sur la semaine proprement dite, puisque c'est une de nos missions du Cerasi, c'est de coordonner des événements solidaires. Donc je m'occupe de tout ce qui est organisation, contact des associations, trouver les intervenants, trouver les lieux, compiler les informations pour le programme, etc. Mais au Cerasi, on fait aussi de la formation pour les associations sur le montage de projets, pour trouver des financements et organiser des actions. Et on monte aussi un point d'information, de documentation sur la solidarité internationale.
Avec un lieu, pardon.
On a un local qui est situé à côté du rond-point, rue Robert le Diable. D'accord. Où les gens peuvent venir gratuitement consulter la documentation.
Ah oui, ça c'est vraiment intéressant, parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile d'avoir un point quand on connaît pas forcément telle ou telle association. C'est bien que ça existe.
Il y a un nouveau projet là en avant-première qui est en train de se faire. En partenariat avec une autre association qui est en vol, c'est la création d'une épicerie culturelle et solidaire au Havre.
Waouh, excellent projet.
Alors, qu'est-ce qui a fait que dans ton parcours personnel, t'en es arrivé à devenir salarié pour le Cerasi?
Ça a toujours été une volonté déjà de travailler dans ce secteur, la solidarité internationale. J'ai fait des études en ce sens, mais c'est surtout en partant sur le terrain en fait. Je suis allé plusieurs fois à Madagascar, j'ai rencontré des acteurs locaux, donc d'une association malgache qui s'appelait donc Hardy. Et en rentrant, j'ai décidé de m'investir dans l'antenne française, puisque en France c'est une antenne et non pas le siège, donc c'est dans le sens inverse. L'initiative vient de Madagascar. C'est ça qui m'a plu, et de fil en aiguille, voilà, j'ai continué à m'y investir. Et avec Hardy, à force d'organiser des choses, on nous demandait beaucoup de conseils sur monter des projets. sur même d'autres pays. Donc on s'est dit, il y a besoin d'un centre de ressources au Havre, puisqu'il n'y en avait pas. Donc on a créé le CERASI.
Donc là, tu nous as parlé de manière succincte, mais je pense qu'on va y revenir dans le cours de la mission, dans le cours de l'émission, pardon, sur ton rôle précis. Mais vous êtes combien au niveau du centre à travailler de manière permanente ?
Alors, salarié, je suis le seul. Après, il y a des bénévoles actifs. Il y a un bureau de trois personnes qui sont très actifs, et aussi des jeunes. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que depuis que le CERASI existe en tant que tel. Depuis mai 2005, donc, il y a des jeunes, l'UIT de Cocréoville, l'Université du Havre, qui viennent me donner des coups de main sur des projets comme la semaine, par exemple, et également des demandeurs d'asile qui sont très intéressés, qui me donnent des coups de main, distribution d'affiches, tenir des stands. Donc, de plus en plus, on a des bénévoles maintenant.
On va détailler le programme, évidemment, au fur et à mesure de l'émission. Ça a commencé hier soir, parce que je faisais une allusion dans ma présentation à Manal, palestinienne, qui suit maintenant des études en France, qui est étudiante en psychologie, qui travaille, qu'on a nous rencontré certains Normands à Naplouse il y a 4 ans, et on a pu voir qu'à la fois elle travaillait avec les enfants sur des choses très intéressantes, c'est-à-dire essayer d'évacuer la frayeur, la pression, enfin tout ce que vivent des enfants dans un pays occupé. Bon, en l'occurrence, c'est la Palestine, mais évidemment, partout dans le monde, quand ces choses-là, quand la guerre est présente à ce point-là, c'est terrible. Bon, elle les fait beaucoup dessiner, écrire, pour éviter justement qu'ils se retrouvent à jeter des pierres. Parce que comme elle expliquait hier, évidemment, jeter une pierre, c'est un acte normal d'un enfant énervé face à des tanks un peu partout, des parents arrêtés. Elle essaie de les faire travailler sur autre chose. Elle était hier, je pense que c'est un choix vraiment intéressant que vous avez fait de la faire venir avec une Israélienne, Tal Dor en l'occurrence, qui est étudiante en sociologie, qui nous a raconté beaucoup de belles choses aussi. Je pense qu'on en reparlera sur le site. Donc ça a commencé hier. Ce soir, avant l'émission, il se passe aussi quelque chose. Peut-être que tu peux nous le dire.
Effectivement, à 18h à Montivilliers, puisque donc quand on parle de la semaine de la solidarité au Havre, en fait, c'est la région du Havre. Et cette année à Montivilliers, le comité de jumelage Montivilliers l'inséré est très actif, organise un nombre très important de choses qui n'est pas tout sur le programme, puisqu'il y a des choses qui sont apparues après. Ce soir, il y avait une conférence sur la solidarité internationale, suivie d'un spectacle de percussion africaine. Et pendant toute la semaine, donc ça, il faut absolument le noter, c'est pas dans le programme, il y a un artiste peintre burkinabé qui est ici aussi, qui est invité spécialement pour la semaine, qui va exposer ses toiles. Donc ça se déroulera à la mairie de Montivilliers pendant toute la semaine, et à la fin de la semaine, au grand rendez-vous du collectif au forum à l'Université du Havre, où toutes les associations auront des stands, Mamoudou exposera ses toiles également.
Donc ça, effectivement, les stands, enfin la permanence de la présence, c'est vendredi et samedi à l'Université du Havre.
C'est ça, Faculté des Sciences.
D'accord. Et justement, peut-être qu'un petit retour, avant de développer sur ce qui s'est passé l'année dernière, en fait. Tu peux nous raconter la fréquentation,
ce qui est vraiment intéressant, c'est que donc, si on fait un petit historique, au moins de la semaine au Havre, c'est donc ça a été créé en collectif en 2003. C'était trois associations, les réunions de préparation, on était trois associations à les faire, quoi, pour organiser le programme. Depuis l'année dernière, depuis qu'il y a, en fait, que je suis salarié, qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de ça à plein temps, réunions de préparation, maintenant, on est une vingtaine, les salles, on est obligé de changer de salle à chaque fois, parce que c'est trop petit, quoi.
Ça fait plaisir.
Donc ça augmente de plus en plus, voilà. Donc l'année dernière, il y avait quelqu'un de Madagascar qui est venu spécialement pour la semaine. C'était le seul témoin du Sud qui a fait des animations dans les écoles. Il y a également un forum des acteurs solidaires. La projection d'un film, là c'était le temps fort de la semaine, c'était Mouladé, un film sur l'excision par Amnesty International, avec un débat très très fort, notamment de la présidente d'une association havraise qui est Yakaré, Nafissa Toufal.
Qui est une de nos prochaines invitées.
Ouais. Elle est vraiment exceptionnelle, qui est très active aussi dans la semaine. Donc, ce qui est aussi ça, c'est, je voudrais vraiment préciser ça, c'est que l'esprit de la semaine, c'est vraiment de parler des pays du Sud de manière positive, plutôt que, comme on a tendance à le faire, en disant c'est la misère, la pauvreté. Là, c'est d'essayer de valoriser ce qui se fait au Sud, et notamment les artistes, les écrivains, les peintres, et d'essayer de les inviter pour qu'ils témoignent. Et cette année, c'est la première année où on a autant de témoins du Sud, donc Zakari du Mali, Mahmoudou Boli du Burkina, Manal Al-Tamimi de Palestine, il y en a d'autres encore. Donc ça, c'est vraiment une réussite.
Donc c'est vraiment intéressant, et tant mieux que ça se passe dans ce sens positif, parce que je le disais dans les tout, bon, c'est vrai que si on écoute les médias plus largement, effectivement, ça donne cette espèce d'impression que malgré tout, plus que de la solidarité, ça reste encore une espèce de charité, voilà, un devoir moral, et c'est assez emmerdant. Quoi.
C'est exactement contre ça qu'on essaie de se battre, et c'est pour ça qu'on invite, vraiment, on valorise auprès des gens, on dit voilà... dans le pays du Sud, il y a des choses qui se passent, même dans l'humanitaire, il y a beaucoup d'associations locales qui font des très bonnes choses, et c'est surtout ça qu'il faut soutenir plutôt que de faire leur place, quoi. Ça, c'est sûr.
Ouais, absolument. Et je voulais, enfin, c'est juste une petite parenthèse. Je sais que si on pense à des choses comme ça en début d'émission, on se dit ouais, à un moment je vais le dire et puis on va oublier. Donc on fait quand même un petit bonjour et voilà, on signale que l'association Timoun qui a été nos invités, qui travaille aussi beaucoup pour faire avancer les choses, et aussi la Tortue Voyageuse qui travaille sur le Burkina Faso, continue à avoir des actions. Et la Tortue Voyageuse, je ne vous donne pas la date parce que je ne l'ai pas de tête, mais sont présents. Très bientôt, une fois de plus, au Havre pour vendre de l'artisanat. Les informations sur le site de Radio Apple Pie. On va peut-être écouter un premier morceau.
essayez de faire le pas de grand son, oubliez l'enfer. J'ai tout laissé, ma vie, mes mots. J'avais rêvé de ce monde nouveau. Pour qu'on me rejette un peu.
Red Lézard, si tu me rejettes à l'eau, un morceau qu'on a passé plusieurs fois parce qu'on l'aime beaucoup. D'une part, il est très émotionnel et en plus, les paroles sont politiques. Et de toute façon, on aime beaucoup les Red Lézard. C'est sur l'album Impasse de la Liberté. Ce que je voulais dire, c'est que malheureusement, on aurait bien passé de la musique choisie par Zachary, mais notre platine n'a pas voulu du CD ou l'inverse, je ne sais pas. Donc, on a bricolé vite fait une petite playlist avec la discothèque quand même de l'Apple Pack qui n'est pas trop mauvaise, ça va. On s'en sort bien sur ce coup-là.
On est toujours avec Nicolas du Cerasi pour parler entre autres de la semaine de la solidarité internationale. Justement, au niveau national, comment est-ce que c'est né la semaine de la solidarité internationale?
Bon, en fait, c'est né en 1997 déjà à l'initiative de quelques associations à l'occasion d'assises de la coopération internationale en région parisienne. Et un certain nombre d'associations se sont regroupées, comme le CRID, le CCFD, Solidarité Laïque, etc. Et ont décidé de parler un temps de la semaine, de pendant une semaine.
Le portable musical de Nicolas sonne pendant ce temps-là. Ouais.
On a de la chance maintenant. Les musiques de portable sont beaucoup plus sympathiques et beaucoup moins dérangeantes.
C'est plus joyeux
qu'avant. Voilà.
Voilà. Donc je disais, c'était créé en 97 et maintenant c'est en France plus de 5000 animations. Un nombre incalculable d'organisateurs et toutes les régions de France sont couvertes. Et ce qui est bien aussi, c'est que depuis quelques années, il y a même dans certains pays du Sud, notamment au Mali, certaines actions qui se font pendant la semaine de la solidarité internationale, alors que normalement c'est en France.
Ah, bah ça c'est voilà. Vraiment bien. Bon, je pense qu'on va en parler avec Zachary dans pas très longtemps.
On a évoqué le programme de la semaine de solidarité internationale. On a déjà parlé de ce qui s'est passé hier et aujourd'hui. On va parler bien sûr de ce qui va se passer dans le restant de la semaine. Mais pour ça, on va inviter aussi les auditeurs à se reporter au programme qui est édité, qui est fort joli d'ailleurs. Pour un embarquement immédiat. On va en parler en détail, mais par contre, je veux bien que tu nous parles de ce qui n'est pas mis sur le programme. Donc,
effectivement, dans le programme, on part un souci de place, puisque étant donné que maintenant, il y a trop d'animations pour les mettre dans le programme, on a mis que ce qui est ouvert au public. Il y a un certain nombre d'animations qui se déroulent dans les écoles. Pas mal d'associations organisent des animations scolaires dans les écoles. À l'IUT, dans tous les collèges du Havre, il y a des artistes qui viennent présenter un conte musical au Havrais. Zachary intervient au sein des établissements scolaires. Artisan du Monde fait aussi des choses sur le commerce équitable. Donc le public scolaire est également touché par la semaine de la solidarité internationale.
Sur le programme, il y avait un thème qui me semblait vraiment très intéressant et dont j'aimerais que tu nous dises un peu plus. C'est une conférence sur le don qui a lieu vendredi après-midi à 15h, si je ne m'abuse. Je crois que malheureusement pour ma part, je serai en train de tenir un stand, donc je ne pourrai pas y assister. Mais
c'est quasiment au même endroit. Ça se déroule dans le cadre du Forum des acteurs solidaires, c'est la conférence du Forum. Effectivement, on a choisi le thème du don pour réfléchir à toutes ces actions de certaines associations qui sont basées uniquement sur le don et la charité, envoi de médicaments, envoi de vieux vêtements, pour en se disant bah ça sert pas ici, ça servira à l'Afrique. Donc on a décidé de réfléchir là-dessus en se disant est-ce que c'est vraiment une bonne solution, est-ce que la solution n'est pas plutôt de favoriser l'autonomie que d'envoyer des choses comme ça pour la bonne conscience et ne plus s'en préoccuper après. Et pour ça, donc l'idée c'est de réfléchir entre nous, les acteurs, les gens intéressés par ça, quelle serait la solution. Parce que c'est ça aussi la semaine, c'est donner au public des pistes concrètes pour agir.
Bien sûr.
Donc plutôt que d'envoyer un vieux livre du programme français qui servira pas forcément pour un Malien, peut-être pour réfléchir à qu'est-ce qui serait efficace pour aider. Et ça, c'est le but de la conférence. Il y aura un maître de conférence, professeur à l'Université de Strasbourg, sur tout ce qui est éthique, professeur de philosophie, qui placera le contexte d'un point de vue sociologique. Et ensuite, il y a Jean-Pierre Guérin, président d'Acupuncture Sans Frontières, qui parlera de tout ce qui est transfert de compétences dans le domaine de la santé, notamment.
C'est vrai que c'est intéressant, et notamment, ce qui va rejoindre le thème de l'écologie, du gaspillage, enfin, des choses comme ça. Je me suis rendu compte l'année dernière, lors d'un vide-grenier associatif organisé par le Secours Populaire, qu'en fait, nous achetons tous beaucoup trop de vêtements. Chez moi-même, on met à culpa, même si j'essaye de me réfréner. Et on croit, on se dit, bon, ben, d'un certain côté, c'est pas très grave, puisque, voilà, après, on les donne, ça sert à d'autres gens. Et en fait, pas du tout. Parce que, enfin, pas du tout, j'abuse peut-être. Hein, mais je pense qu'on recevra bientôt le Secours Populaire qui l'expliqueront mieux que moi. Mais il se trouve qu'ils m'ont dit ce jour-là que dans leur immense hangar, ils ont des tonnes quasiment de fringues. Et en plus, elles ne sont pas triées. Donc ça supposerait aussi toute une infrastructure pour jeter ce qui vraiment est franchement inutilisable, pour ne serait-ce qu'en France, hein, pour voilà trier par catégorie, par homme, femme, jupe, veste, hiver, été, etc. Et en fait, il n'y a pas les moyens de ça.
Et en plus, ça coûte cher. Voilà. L'envoi coûte très cher. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça détruit l'économie locale, puisqu'on n'achète pas sur place, alors que ça coûte pas très cher. Et donc, ça profite pas aux commerçants sur place. Donc, ça aussi, c'est cet impact-là.
Oui, je pense que c'est aussi une sensibilisation des personnes qui donnent. Enfin, donner à autrui, c'est pas se débarrasser d'eux, ce qui n'est plus mettable. Et voilà, c'est aussi respecter ça. La personne, de faire attention au tri, et sans parler d'envoyer à l'étranger, ici en France, les vêtements dont nous n'avons pas besoin, mais qui sont encore utilisables, on peut les donner aussi à des personnes qui en ont le besoin ici.
Non, mais je parlais même de la France, hein, sans vouloir m'étendre là-dessus, mais malheureusement, il se trouve qu'on peut être dans la même ville du Havre, qui n'est pas si immense que ça, avec d'un côté des gens qui n'ont pas forcément les vêtements adaptés, hein, et d'avoir justement un entrepôt plein de vêtements. Mais comment faire pour que ça fonctionne, sans compter que riche ou pauvre, ou entre les deux. Tout le monde est un petit peu victime de la mode, comme disait l'autre, et ne veut pas apporter n'importe quoi, voilà. Et donc
envoyer des pulls, des vieux pulls en Afrique, est-ce que c'est vraiment
absolument non, mais ou même voilà, d'un quartier à l'autre, si tu veux, c'est-à-dire que il se trouve aussi que certains vont vouloir porter je vais pas dire les marques, et et si quelqu'un a acheté un très beau pull et qui se dit bah, ça va faire plaisir à quelqu'un d'autre, et ben non, pas forcément. Donc essayez de ne pas faire comme moi, réfrénez-vous tous dans les achats de vêtements, et effectivement pensons autrement. Par contre, le don, je croyais, mais enfin apparemment c'est pas le propos, que ça aurait pu être une réflexion sur ce que pourrait être, bon ça c'est un peu utopique et peut-être en dehors de la semaine de la solidarité internationale, le don comme économie mondiale, comme manière de fonctionner, mais bon, c'est...
Si, un peu ça aussi, mais c'est quand même vraiment surtout sur, très concrètement, les projets de développement, quel est l'impact du don, quoi, dans un projet humanitaire, est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut privilégier le plus possible.
Est-ce que le don d'argent va être évoqué lors de cette conférence?
Toute forme de don, et donc, notamment le philosophe va essayer de le replacer dans un contexte sociologique, et même ne serait-ce que quand on se déplace dans un pays et qu'on donne, on arrive avec nos vieux vêtements, c'est vrai que ça crée une supériorité par rapport à l'autre, donc rien que ça, est-ce que c'est vraiment ça la solidarité internationale, créer une supériorité par rapport à la personne à qui on donne. Donc voilà, c'est toutes ces questions-là. On a tous tendance, ça fait partie de nous, à se dire, voilà, je vais lui donner, il en a besoin, ça va faire plaisir. Mais encore une fois, sur le long terme, c'est pas sûr que ça soit vraiment la meilleure solution. Et par exemple, il y a le dernier prix Nobel de la paix qui a été donné à Mohamed Younous pour le microcrédit. Le microcrédit, c'est vraiment ça, quoi. C'est prêter, non pas donner, des petites sommes d'argent à des gens pour qu'ils investissent et qu'ils se responsabilisent.
Oui, c'est formidable parce que c'est vraiment des sommes qui, en tout cas, vues de France, semblent petites. Et il y a eu un reportage dans un journal de midi de France 2 qui explicitait pour une fois assez intelligemment ces choses-là, où une famille qui avait perdu ses animaux, qui n'avait pas le moyen d'en avoir, rien qu'en ayant de quoi acheter une chèvre, ça semble limite dérisoire. Tout d'un coup, pouvait, par cette chèvre, c'était la version, on va dire, positive et encourageante de Perrette et le pot au lait, acheter encore plus, investir, et voilà. Où en effet, toutes les femmes de la famille disaient, mais maintenant, grâce à ça, nous, on va au marché régulièrement, toute la famille vit bien, et on peut même aider les voisins.
C'est donner le petit coup de pouce pour que la personne se réintègre dans le cycle économique, quoi.
C'est intéressant parce que la première fois qu'on entend vous intervenir, hein, ça peut s'accarrer. Oui. On parle avec Nicolas, mais si vous avez envie à ce moment-là de dire quelque chose, vous aussi, parce qu'elle est Ludo, bien entendu. Les premières fois qu'on a entendu parler de microcrédit, on aurait pu avoir peur que ça soit un espèce de discours comme il y en a des réacs en France. Pas donner à ces gens-là.
Pas du tout.
Pour la prêter, parce que quand même, ils se bougent un peu. Toi. Et non, c'est pas ça en fait. C'est effectivement. Ça correspond à une demande précise.
Exactement. C'est une anecdote précise peut-être de terrain que j'ai vu moi en allant à Madagascar, parce que c'est le pays que je connais le mieux. Un microcrédit, il y avait un tireur de pousse-pousse qui, donc son métier c'était de tirer des pousse-pousse. Tout l'argent qu'il récoltait, ça servait à payer le propriétaire du pousse-pousse. L'association lui a prêté de l'argent, il a pu acheter un pousse-pousse. Donc du coup, l'argent qu'il gagnait servait à vivre. Maintenant, il a 3-4 pousse-pousse. Et voilà quoi. Donc c'est vraiment donner le petit coup de pouce pour repartir quoi.
C'est lequel de le lire ?
C'est lequel de le lire, oui, effectivement.
On le sentira bien que nos invités ce soir, à part Nicolas Desseragi, c'est coup de pouce pour les enfants de Daga.
Et pour finir sur le microcrédit, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est la première initiative qui a été inventée au sud, donc par Mohamed Younous au Bangladesh, et qui est maintenant appliquée au nord, puisqu'il y en a en France. Voilà. Donc ça, c'est aussi intéressant.
Une question ?
Bah, bien sûr, bien évidemment. On a évoqué tout à l'heure qu'il y avait un certain nombre d'associations qui étaient présentes sur la semaine de la solidarité internationale, aussi bien au niveau de l'organisation que de la présence à proprement parler, au niveau des stands, des conférences, des expositions. Et il y en a une qui est bien présente aussi toute la semaine, un peu, je dirais, sous une forme de fil rouge avec l'exposition, c'est Amnesty International. Alors cette exposition, c'est le travail des enfants dans le monde. Elle a été réalisée par Amnesty International, mais pas uniquement. Qui est-ce qui l'a montée, cette exposition, et comment elle s'est montée?
Nicolas n'a pas tous les détails.
Non, donc c'est pour ça.
Je reprécise, donc le CERASI a un rôle de coordinateur. Voilà. Des animations au Havre et en région de Normandie, et en l'occurrence l'exposition, nous ne l'avons pas organisée, c'est Amnesty qui l'a organisée. On a sollicité Amnesty pour faire partie du programme, et j'avoue que je ne connais pas tout l'historique de toutes les animations.
Voilà. J'ai pas l'historique non plus, bien que j'ai croisé hier évidemment, parce qu'elle fait partie aussi de France Palestine Solidarité, Marie-Françoise, qui est la présidente d'Amnesty International. Ce que je peux dire, c'est qu'elle m'a dit qu'elle était bien crevée, parce que c'est un sacré boulot, mine de rien.
Par contre, j'ai vu, et de c'est gérer une très toute belle exposition. Quoi, ouais.
Donc justement, on invite les gens à aller la voir. Ça se passe à la maison de l'étudiant, à l'université, qui est évidemment pas très loin de l'université.
Et donc, justement, l'université est aussi un très très bon partenaire de la semaine.
Il s'implique vraiment beaucoup.
Depuis 2 ans, et vraiment plus cette année, encore plus.
Ça tombe bien que tu aies posé cette question sur Amnesty, parce que effectivement, je voulais insister sur le fait que Amnesty International a un catalogue, et c'est bientôt Noël, donc bon, parfois ça peut être une occasion de commander des choses chez eux, dans la mesure où à la fois c'est pas forcément très cher, c'est souvent, très souvent, du commerce équitable. Ils travaillent à la fois avec Médecins du Monde, à la fois avec les acteurs dans le monde. Amnesty International, qui est très sensibilisée à la cause des femmes, travaille beaucoup avec des coopératives, justement, de femmes, et ce qui rejoint aussi le microcrédit. Et ils ont de l'artisanat qui peut être du Mexique, de nombreuses coopératives en Inde et en Afrique. Ce sont vraiment des choses très belles. Et franchement, vous commandez Amnesty... Oups, si Marie-Françoise était là, j'allais dire commander par catalogue. Non. Allez voir le groupe local qui vend aussi ces choses-là et qui sera d'ailleurs présent en ce qui concerne la vraie présence dans le bar à l'université vendredi et samedi. Je crois qu'on a fait un premier tour, en tout cas, du programme local de la semaine de la solidarité internationale.
Je vais rajouter un petit truc sur le programme. C'est donc qu'il y aura pour la première année aussi une soirée de clôture de la semaine où on s'était dit qu'il fallait qu'on réussisse à mobiliser les associations pour organiser une soirée ensemble. Donc c'est vraiment le collectif qui a organisé la soirée, qui se déroulera samedi soir, 18 novembre, au local de l'association Trait d'Union à Montgaillard, centre commercial d'Auchan. Il y aura un repas équitable sénégalais, suivi d'un spectacle de conte musical de Madagascar par deux artistes professionnels.
Superbe.
Voilà.
Avec un bluesman du Mali qu'on a failli avoir ce soir. Ouais, du Madagascar, pardon. Il n'a pas pu venir malheureusement, mais bon, on le rencontrera à ce moment-là.
Fois.
Nicolas, de toute façon, tu restes autour de la table et si tu le veux bien derrière le micro de Radio Apple Pie. Un troisième morceau.
Miracuti Buddha. Jean dit à Siki Mi nounour tangamou singrenko Nami Jean dit à Siki Mi nounour tangamou singrenko Soua, 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 soua,
Semaine de la solidarité internationale, toujours avec Zachary Daïseb de Coup de pouce pour les enfants de Dagar. Et en l'occurrence, c'est Nicolas qui vient de nous parler du Serasi qui a choisi ce morceau. Tu peux nous le présenter,
donc,
s'il te plaît?
Oui, c'est un titre du groupe Tani Manga de Taoravao qui est très actif dans la semaine de la solidarité internationale au Havre depuis plusieurs années, qui est passé en concert l'année dernière à l'Agora dans le cadre de la semaine. Et qui, depuis 3 ans maintenant, fait des animations scolaires, donc sensibilise les enfants à la solidarité internationale et montre un aperçu de la culture malgache en apprenant aux enfants à jouer des instruments. Et donc cette année, je le disais tout à l'heure, il présentera un spectacle de conte musical samedi soir.
D'accord.
Voilà.
Bah écoute, je pense qu'on aura l'occasion de passer un autre morceau dans notre playlist ce soir.
Il y a des chances. On passe à notre deuxième invité, et pas des moindres. On a beaucoup parlé de Zachary en début d'année, parce que nous étions déjà avec Sébastien et Ida, de Coup de pouce pour les enfants de Daga. Et Sébastien nous avait beaucoup parlé de son ami Zachary, et là... Au mois de septembre, je crois, il nous dit « Bah voilà, Zachary va venir pendant la semaine de la solidarité internationale. » Et nous, là, on s'est dit « Bah Zachary, il faut qu'il vienne au micro de la radio » parce que forcément qu'il a des choses à nous dire sur ce qu'il fait, sur ce qu'il aime, sur ce qui se passe au Mali et entre autres. Donc voilà, ces choses faites. Zachary est venu du Mali, pas que pour nous, hein. Mais le principal, c'est qu'il soit là ce soir. Donc, bienvenue chez nous, Zachary, au bar de l'Apple Pie, autour de la table, autour du micro.
Merci.
Pour parler avec nous. Et merci vraiment d'avoir accepté l'invitation.
Et apparemment, c'est un voyage qui s'est fait non sans mal. Enfin...
Oui, bonsoir d'abord à toutes et à tous. Comme tu viens de l'annoncer, le voyage, ce n'a pas été du tout facile. Et c'est un voyage qui, si je me souviens, l'organisation du voyage s'est commencée depuis 2 mois. Alors, j'étais en contact avec Sébastien et il m'expliquait comment il fallait faire les démarches. Pour venir participer à la semaine internationale de la solidarité. Et croyez-moi, nous avons d'abord introduit au niveau du consulat de France à Bamako pour la première fois les dossiers. On pensait réellement que ces dossiers étaient vraiment au complet. Alors, et les dossiers ont été rejetés. Pourquoi? Que j'avais pas un profil d'un jeune qui va se retourner au pays. Alors ce n'est pas du tout facile. Et j'ai directement contacté Sébastien et alors là il me dit Zachary, tu sais, moi pour moi la lutte n'est pas finie. Et lorsqu'il m'a dit la lutte, j'ai compris tout de suite que c'était pas juste mettre un dossier au niveau du consulat, mais réellement c'est quelqu'un qui était engagé pour mon arrivée au niveau du Havre. Alors je lui ai dit qu'il peut passer avec des amis, et là il a envoyé, l'association Coup de Pouce a envoyé un fax au vice-consul. Il y a un ami, il a touché un ami français avec qui j'ai écrit un livre, qui a envoyé un fax au niveau du consul de France au Mali, et il a contacté aussi mes amis de l'Angleterre, John et Mary Wolt, qui ont envoyé encore un troisième fax au vice-consul de France à Bamako, et finalement il m'a rappelé et il m'a invité pour un entretien. Alors et on avait bien parlé et bien discuté. Il dit voilà, et lui il va être clair avec moi, et si mes dossiers ont été rejetés, parce que les dossiers ne sont pas été au complet, mais juste nous, on pense que vu tout de suite, il pensait que vu l'immigration, il pense que si je venais là, je n'allais pas retourner au pays. Alors, je l'ai confirmé que moi, je vais retourner au pays. Alors, j'ai des choses à faire là-bas. Alors, il me dit, voilà, Jacary, moi, je vais te donner le visa. Mais voilà, si tu ne reviens pas, l'association Coup de Pouce du Havre, je les mets dans la liste rouge.
Wow.
Alors, et je le dis, monsieur le vice-consul, vous aurez la chance de me revoir si l'avion me dépose tout bonnement à l'aéroport de Bamako. Alors là, j'ai eu finalement le visa et je suis là, et ça n'a pas été du tout facile. Et je pense que il me verrait à Bamako avec, parce qu'il m'a donné une convocation, ouais, et ce qu'on appelle une présentation au retour du voyage,
ouais,
et qu'on affiche.
La preuve que tu es bien rentré.
Voilà, et je dois me présenter physiquement à l'ambassade pour dire que je suis de retour. Alors voilà un peu. Sébastien pourrait vous dire en détail toutes les difficultés qu'il a eues au niveau de la France.
Non, juste pour modérer un peu le propos, dans le sens où quand même la discussion était quand même assez ouverte, ouais. Et puis on s'est confronté à des gens qui n'étaient pas obtus, donc là on a pu quand même discuter avec le vice-consul de manière très ouverte, donc la discussion s'est faite, et puis on a eu peur de se trouver devant des gens complètement braqués, ce qui n'a pas été le cas, donc il a fallu argumenter, on les a eu un petit peu à l'usure, mais bon, il y avait des arguments, il a fallu défendre nos positions, et ça s'est fait, quoi.
Voilà. Ils n'étaient pas forcément tous sarkozistes, mais comment dire, ce qui est quand même curieux, c'est que quelqu'un, on va en parler avec Zachary, qui est étudiant, alors je ne sais plus en combien année de médecine, voilà, tu vas nous le dire, qui est très impliqué dans la vie de son pays, pour avoir un visa pour quelque chose comme 15 jours.
Un mois, pardon.
Ça doit être quand même compliqué, alors qu'on pourrait s'attendre à ce que dans un cadre effectivement bien défini, il n'y ait pas cette suspicion.
Ah, mais ça a été voilà, très compliqué. Oui, bien sûr. Parce qu'on s'est quand même heurté au début à un refus net. Hein, alors que on s'est aperçu par la suite que le dossier, en fait, les pièces du dossier n'avaient pas été examinées, en fait. Donc le premier choix se fait sur les critères. C'est-à-dire qu'il était d'une part étudiant, sans véritable attache familiale, sans enfant, donc il fait partie des critères qui sont systématiquement refusés. Donc derrière, il a fallu argumenter puis fournir des pièces justificatives. Mmh. Mais bon, on a réussi, il est là.
Mmh. Ouais, bon, on est vachement content.
Enfin, cette expérience-là, dans le sens Mali-France, me fait penser à ce que tu nous avais raconté, toi, Sébastien, par rapport à l'importance de l'oralité en Afrique et de l'accord oral. Quand on donne un accord oral en Afrique, on sait qu'il va être respecté et on y attache beaucoup d'importance. Et nous, au contraire, il faut qu'on produise 1 million de papiers pour nous croire, alors que le parcours de Zachary et ses projets suffisent à laisser croire que de toute façon, il va retourner dans son pays, au Mali, parce qu'il a des choses à y faire.
c'est sûr. Faut quand même savoir qu'au niveau de, ça Zachary, tu pourras me le dire, au niveau de l'ambassade, à un moment donné, c'était quand même confronté à un problème, c'était 50% des jeunes qui avaient le visa ne revenaient pas, en fait. Hein.
Ah oui.
Donc voilà, c'est quand même, y avait quand même aussi de ce côté-là, bon, y a quand même un...
Il y avait une réalité.
Il y avait une réalité. Hein. C'était une personne sur deux des jeunes qui avaient le visa, une fois arrivés en France, ne revenaient pas. Donc voilà, tout ça est un contexte.
Alors,
un peu...
Sachant que, à moins que Zachary le souhaite, et malgré la question que nous posait Anne-Lézy ici présente ce soir, on ne va pas parler directement justement d'immigration, de sans-papiers, parce que d'ailleurs, ça fera l'objet de notre émission dans 15 jours.
Juste sur le sujet, avant de clore le sujet, j'en profite pour un retour au programme. Demain soir, il y a un film au cinéma Le Sirius qui s'appelle Bienvenue en Afrique, qui traitera de ce thème sous l'angle de la comédie. Donc je vous invite vraiment à y aller. Où en fait, c'est filmé deux policiers racistes qui sont chargés de raccompagner de sans-papiers dans leur pays d'origine et qui se retrouvent en Afrique sans papier, en fait, perdu, sans papier.
Wow.
Donc c'est les filmer dans, un peu dans le sens inverse. Il y aura un débat à la suite du film par la Ligue des droits de l'homme et Réseau Éducation sans frontières. Voilà. D'accord. Andreas Gruber.
Il est à quelle heure ?
20h30 au Sirius.
Alors Zachary Saï, quand Sébastien et Ida sont venus en janvier l'année dernière, Seb nous a dit qu'il avait rencontré d'abord Joseph, et après, naïvement, on a posé cette question, mais ils se connaissent, Zachary et Joseph, et il nous a dit, mais de toute façon, ce sont des Saïs, et dans le village, tout le monde a le même nom.
Oui, tout le monde a le même nom, et c'est une chose qu'on rencontre très fréquemment au Mali. Par exemple, surtout au pays d'Ogon, moi je suis originaire du pays d'Ogon, et au pays d'Ogon, chaque village a son nom.
D'accord.
A son nom, et à Tereli, nous sommes par exemple tous Saï, sauf les femmes qui quittent d'autres villages et qui viennent se marier par exemple à Tereli, elles gardent toujours leur nom.
Ah oui.
Elles gardent toujours leur nom, alors, et en plus de ça, Joseph qui l'a connu pour la première fois, et c'est un cousin à moi. Voilà.
Donc c'est vraiment la famille.
Voilà, exactement.
Donc c'est des rencontres qui ont été faites. Donc là, on ne va pas tout redire puisque tous nos audinotes, ils peuvent écouter ces émissions qui sont toujours en ligne. En parlant de toi, on disait donc que tu étais étudiant, que tu étais étudiant en médecine et tu fais partie d'une association. Peut-être que tu pourrais nous dire alors différentes choses. Je vais te dire, tu réponds petit 1, petit 2, comme tu veux, dans le désordre. Souvent, quand on fait des études de médecine, je pense que c'est déjà qu'on a une volonté altruiste. En tout cas, on a envie d'aimer les autres, de participer à quelque chose. Et tu as aussi cette implication associative. Alors, est-ce que pour toi, c'est lié ? Est-ce que ça s'est fait progressivement ?
Exactement. Et moi, je suis membre d'une association qui est depuis 5 ans partenaire de coup de pouce pour les enfants de Daga. Et l'association s'appelle ARTPS. C'est une association des élèves étudiants ressortissants de Tereli, de Pégé et sympathisants. Et actuellement, on peut compter environ 300 jeunes dans l'association qui sont vraiment tous natifs du milieu. Alors, beaucoup de jeunes comme moi ont eu à partir à l'école. Alors, au moment où nous avons eu la chance d'aller à l'école, nous avons dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour le village? Qu'est-ce qu'on peut donner? Parce que tout de suite, moi, par exemple, moi, je ne pourrais pas aller donner à mon père ou bien à mes parents de l'argent, mais qu'est-ce que je peux faire pour ces cultivateurs, le pays de Gand, tout le monde cultivateur là-bas. Alors qu'est-ce qu'on peut les donner?
Mm-hmm.
Alors nous sommes réunis au sein d'une association et là nos actions sont surtout dirigées par exemple sur l'éducation, sur la promotion de la santé dans ces milieux. Et puis actuellement nous avons un peu l'avancée du dessert qui qui arrivent par le nord, Tombouctou et autres. Alors nous avons des journées de reboisement et des journées de salubrité. Et beaucoup nous travaillons beaucoup sur l'hygiène. C'est une infirmière jaune qui a une couverture hygiénique qui est très faible. Alors et je parlais tout de suite que par exemple au niveau de l'éducation, chaque année nous retrouvons sitôt au mois de septembre au village pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et il y a des jeunes qui sont restés jusqu'à présent qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Alors comment faut-il faire pour que tous ces jeunes-là puissent aller à l'école? Ça, c'est très important. Il y a des difficultés. Par exemple, moi, je suis ici d'une famille de 10 enfants. De 10 enfants, c'est pas du tout facile. Et c'était pas du tout facile. Et mon père, qui était chef du village, qui avait accepté en ce moment, qui est vraiment une école dans le village, était dans l'obligation aussi de montrer aux autres qu'il fallait envoyer les enfants. S'il a dit, s'il a envoyé 7 de ses enfants à l'école, et c'est pas du tout facile. Et il y a seulement que, par exemple, dans mon village, il y a seulement que 6 classes, et après ces 6 classes, il faut obligatoirement quitter. Et par exemple, moi, j'ai quitté le village à l'âge de 12 ans, parce que à 12 ans, j'étais obligé de quitter les parents, et pour faire à peu 50 kilomètres. Mais je revenais seulement que 3 fois. Ça veut dire que les congés de Noël, les congés
3 fois par an.
Oui. Et les congés de Pâques et les grandes vacances.
Zachary, ce que je voulais te demander, puisque tu disais qu'à l'âge de 12 ans, tu as dû quitter le village et ne revenir que 3 fois par an. Peut-être déjà nous dire dans quelle ville tu étudies à ce moment-là et où tu pouvais habiter, comment ça se passe.
Alors là, j'étais à Pelle. Pelle, c'est dans la plaine, vers la frontière Mali-Burkina. On était à quelques heures du Burkina Faso. Et là, mon père avait une connaissance.
D'accord.
Où j'étais logé. Mais pour une année, mon père était dans l'obligation de donner des sacs de mille.
Ah oui.
Des sacs de mille avec une somme comme 10 000 francs CFA et pour la famille qui m'accueille. Alors pour tous les autres enfants, c'est pas une chose qui est très très facile. Et il y a des familles qui pouvaient pas donner ça.
Bien
Alors
sûr.
Lui, il était un peu dans l'obligation de le faire parce qu'il demandait aux autres familles d'envoyer les enfants à l'école. Alors c'était pas facile pour les autres familles de comprendre qu'ils gardent ses enfants à la maison et qu'ils demandent aux autres d'envoyer. Alors voici
oui,
un peu voilà,
sûr,
il fallait donner l'exemple voilà.
Mais alors donc dans l'éducation, parce que bon, on pourra revenir concrètement sur ce que vous faites pour aider à l'éducation, mais en ce qui te concerne toi, parce que c'est quand même des hautes études, c'est d'autant plus difficile à financer. Comment ça se passe au Mali, parce qu'après quand on va carrément étudier à Bamako, je suppose que ça, il y a encore plus de complications.
Oui, mais il y a toujours des difficultés. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'arrivent pas à terminer leurs études jusqu'à Bamako, des jeunes de la localité. Excusez. Alors, il y a des jeunes qui, par exemple, qui quittent l'école primaire dans les villages où il y a seulement 6 classes. Après, pour des familles, par exemple, qui n'ont pas de connaissances ou qui n'ont pas de moyens pour soutenir les études de l'enfant, alors c'est pas du tout facile. Et après ces 6 années de classe, il n'arrive pas à continuer. Alors c'est pour ça que maintenant, là, on a même d'ailleurs le projet de construction que Sébastien va beaucoup parler, un projet de construction des salles de classe, alors pour freiner un peu l'absence de ces enfants. Mais par exemple, après ces 50 kilomètres, il n'y avait pas le lycée dans la localité. J'étais obligé de venir jusqu'à Ségou, où j'étais à 500 kilomètres des parents. Alors, et ça, c'était pas du tout facile. Et pour moi, d'être pour la première fois, je suis venu dans la ville, je connaissais personne.
J'étais encore très jeune en plus.
Très jeune, mon père ne connaissait pas quelqu'un et je me suis dirigé vers une paroisse catholique qui m'a accueilli et pour juste, ça c'est un peu...
D'accord, j'avais demandé quelle structure pouvait accueillir si l'État ne gère pas... Tu veux dire quelque chose, Sébastien ?
Non, comme on parlait du thème de l'éducation, Zachary, si tu pouvais nous parler de le problème au niveau de l'éducation pour les filles, la scolarité, comment ça se passe ?
Oui, pour...
Et les initiatives qui ont été initiées par la RTPS ?
Oui, l'éducation des filles, c'est un problème qu'on peut voir jusqu'à présent, mais ça diminue. Alors, par exemple, les filles, moi je me souviens, un exemple, quand je suis parti pour la première fois à l'école, nous étions au nombre de 49. Et sur les 49, il y avait seulement 11 filles. Et on pensait que c'était même trop. Et sur les 11 filles, rares des filles qui pouvaient arriver jusqu'au lycée. Alors, pour plusieurs raisons. Alors, les mamans ne veulent arriver à un niveau. Elles veulent que leurs filles les aident dans les ménages parce que là-bas,
les femmes, familles sont nombreuses aussi, il faut aider.
Voilà, exactement. Les femmes, elles vont aller chercher de l'eau, elles vont aller chercher des bois et en dehors du village. Alors, elles veulent que ces filles, leurs filles les aident. Ça, c'est un d'aider. Et on peut comprendre que aussi, là-bas, il y a ce qu'on appelle l'aspect du mariage très précoce. Mmh. Alors, parfois, la moyenne au Mali, par exemple, l'âge moyen, c'est 16 ans pour les filles et 25 ans pour les garçons. Alors, il y a des familles même qui donnent quand l'expression ici, ça, peut-être ça n'existe pas, on donne. Ça veut dire qu'on dit à la fille, il faut se marier à ce monsieur.
Alors, en fait, justement, et pour rentrer dans ce qu'on disait en début d'émission, c'est de plus en plus rare en France. Enfin, c'est compliqué avec des populations mouvantes. Enfin, bon, mais disons que, en tout cas, ça a évidemment existé dans ce pays, comme je crois, hélas, en presque tous les endroits du monde, de choisir pour les filles très jeunes des maris, qu'elles soient d'accord ou pas, qu'elles soient amoureuses ou pas, et que les garçons d'ailleurs soient amoureux ou pas. Et je me souviens effectivement, je crois que c'est Ida qui l'avait dit dans l'émission de janvier, qu'on dit. Encore dans certains pays d'Afrique, mais vraiment, franchement, il n'y a pas si longtemps, c'était aussi le cas en France, on n'investit pas dans l'éducation d'une fille, puisque de toute façon, ce qu'elle va faire, c'est se marier et élever des enfants.
Voilà, exactement. Et comme actuellement, nous, notre rôle, c'est que nous passons dans la famille. D'abord, nous parlons aux mamans. Et pour les expliquer l'importance, surtout, d'amener les filles à l'école. Alors, et l'association, par exemple, prend en charge les frais de scolarisation et les cahiers, les bics et tout ce qui concerne les filles. C'est gratuit. La famille n'enlève absolument rien. Parfois, on amène des pagnes pour aux mamans pour leur dire que, par exemple, une maman qui envoie ses filles à l'école, on leur donne des pagnes ou des moustiquaires. Et une fois qu'on a fait, surtout avec l'aide des coups de pouce, c'est réellement maintenant une réussite. Je peux dire qu'une réussite. Actuellement, on peut dire, par exemple, sur 40 élèves dans une classe, on peut trouver à peu près 19, même voire 20. Et actuellement, il y a la politique, il y a une politique qui a été prise au Mali. Ça veut dire que la politique des genres, ça veut dire que dans chaque classe, il y a autant de filles que autant de garçons. Ça veut dire. Même avec cette politique, nous pensons que on va arriver et que les filles surtout moi, je le dis parce que je parle là-bas, je témoigne. Plusieurs fois, je le dis, les filles à l'école, elles travaillent mieux. Ouais. Elles travaillent mieux que les garçons. Chaque fois, je le dis ça, même à l'université actuellement, chaque fois, c'est les filles qui sont qui sont en tête. Alors pourquoi ne pas leur donner la chance d'aller à l'école et puis de pouvoir mieux travailler. Alors actuellement et dans beaucoup de villages, je pense que ça arrive à changer et que on voit de la lumière.
Tant mieux.
Ludo. Tu parlais de la difficulté d'accéder à l'éducation et précédemment Sébastien parlait des jeunes diplômés qui avaient quitté le Mali en nombre assez important pour ne pas y revenir. Comment s'y prennent les associations justement pour sensibiliser ces diplômés au rôle qu'ils pourraient avoir sur place, à ce qu'ils pourraient apporter au Mali plutôt que de partir, d'avoir le rêve de partir systématiquement à l'étranger?
Oui, il y a beaucoup d'associations actuellement au Mali comme dans beaucoup d'autres pays africains. Et qui font beaucoup de choses dans ce cadre-là, c'est qu'avant d'aller vers ces jeunes, il faut comprendre une chose. Il y a ces diplômés qui sont là, on leur dit il ne faut pas partir, vous restez là, mais on ne peut pas leur dire il faut rester là sans leur dire quelque chose.
Sans les motiver.
Sans les motiver. Au moment où on dit qu'il faut pas les faire, alors il faut les montrer. Il faut les montrer quelque chose ou bien il faut les conseiller à faire quelque chose.
Alors,
leur donner du travail. Ou
que l'État s'implique.
C'est pour ça que vous allez voir des jeunes diplômés qui ont fait bac plus 4, plus 5. Vous allez voir, ils n'ont rien, ils sont ils sont chauffeurs ou bien ils font des pousses-pousses. Alors, c'est pas du tout facile pour eux d'accepter. Alors, ils voient certains jeunes qui viennent au nord et qui envoient, par exemple, de l'argent ou des trucs. Ils voient ça. Alors, ils pensent que rester là-bas, c'est une cause perdue. Alors, maintenant, c'est pour ça que les associations qui sont là, n'ont pas assez de moyens pour les dire que pour les retenir. Mais qu'est-ce qu'ils font? Parfois, dans les quartiers où je suis à Bamako, les jeunes, on les fait regrouper, on fait monter par exemple un projet, ils sont dans une ONG ou bien même juste pour la salubrité de la ville ou des trucs comme ça, où on les donne. Par exemple, des taxis, juste monter un projet pour les faire retenir ou bien même chercher de l'emploi pour ces jeunes. Et chose que dans un pays où il y a pas où le chômage est vraiment élevé, il faut reconnaître que c'est pas du tout facile de les retenir. Mais actuellement, les gouvernements comme les associations sont là à freiner quand même le départ de ces jeunes-là qui coûtent vraiment cher pour le pays.
Excuse-moi Zachary, mais que fait le gouvernement par rapport à ça? Parce que c'est vrai qu'on entend souvent parler des associations locales, enfin de ce que vous faites vous au Mali. Est-ce que le gouvernement malien se donne les moyens non seulement de donner une utilité à ces jeunes? Bon, c'est bien, mais enfin, quand tu fais beaucoup d'années d'études et que tu fais partie d'une famille nombreuse, il faut qu'il y ait quand même des salaires aussi qui correspondent à quelque chose. Il y a des efforts de...
Oui, il y a des efforts par rapport à un certain nombre d'années précédentes. Alors, actuellement, je me souviens, il n'y a pas plus de 2 ans, on a créé une commission nationale qui enregistre des jeunes qui n'ont pas de travail. Et le gouvernement essaye de par exemple de mettre des matériels, par exemple des mécaniques ou des constructions ou des choses comme ça à leur disposition. Mm-hmm. Et si par exemple ça coûte, les matériels coûtent 1 million, et des jeunes, après une dizaine de jeunes se regroupent et le gouvernement leur donne la moitié seulement de ces choses. Il y a des choses comme ça qui se passent et puis ça progresse un peu, mais c'est un peu lent.
Oui, enfin, quoi qu'il en soit, Zachary, t'es obligé d'admettre que c'est quoi qu'il en soit, actuellement, c'est vous qui prenez votre destin en main. Si tu évoques un peu les problèmes de bourse que vous avez à la faculté de médecine, vous êtes tous les ans, vous êtes au moins un mois sans avoir les bourses, vous êtes systématiquement en grève. Quand je vois quand vous êtes vous avec Joseph, enfin avec les jeunes que je côtoie au niveau de la faculté de médecine, vous attendez au niveau de l'État, vous avez quand même fait le choix de prendre les choses en main.
Oui, exactement. Et les jeunes, comme vient de dire Sébastien, c'est pas tous les jeunes qui le font. Par exemple, moi, je fais partie des mouvements des étudiants, par exemple, d'Imali, où nous prenons les choses en main. Par exemple, même actuellement, en ce moment où je vous parle, par exemple, la fac de médecine qui est dehors, qui est en grève, par exemple, il y a la bourse, on n'a pas de bourse. Nous avons des internes qui ont juste une petite somme par trimestre. Alors, toutes ces choses découragent les jeunes et puis surtout ça les pousse même de quitter le pays. Par exemple, nous, il y a des jeunes médecins actuellement qui quittent le Mali pour même d'autres pays africains, voisins, où les médecins sont bien payés. Alors, il y a des mouvements actuellement, nous revendiquons, nous faisons des marches, nous écrivons, nous ne nous fatiguons pas d'écrire, de rappeler le ministère de l'Éducation, les membres du gouvernement, même aller, on est allé plusieurs fois au niveau de l'Assemblée nationale. Les jeunes prennent actuellement la lutte et puis je pense qu'il y aurait à avoir du changement si les jeunes, comme il vient de dire, s'impliquent activement.
C'est le véritable espoir. Je pense que ça vient de personnes comme lui. Hein. Il faut pas se leurrer. Hein.
Alors justement, c'est ce que, enfin, le tableau que tu dresses, là, Zachary, c'est d'un côté. Grosso modo, le gouvernement malien qui, par parcimonie, donne quelques aides ponctuelles. À côté de ça, des jeunes volontaires qui ont envie de s'en sortir et qui surtout ont envie de faire quelque chose pour leur pays. Une aide extérieure internationale qui peut venir ou ne pas venir, qui peut être acceptée ou ne pas être acceptée. Et à côté de ça, donc vous, au sein d'associations qui essayez de faire en sorte que y ait effectivement quelque chose qui émerge de positif. Quand vous voyez que le gouvernement ne répond pas favorablement à vos demandes ou qu'il met un certain temps à satisfaire les demandes de bourse en tant qu'étudiant, est-ce que y a des moments où vous n'avez pas envie de dire les uns et les autres, bon, ça va, il y en a marre, quoi. On fait tout pour pouvoir rester ici et faire ce qu'il y a à faire, et pour autant, le gouvernement ne nous aide pas. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où il y a vraiment un gros ras-le-bol, ou bien vous dites toujours, non, de toute façon, il faut continuer à se battre, il faut continuer à lutter, et puis il y a aussi le soutien des associations extérieures qui sont là.
Oui, cette idée ne peut pas être partagé par tous les jeunes. Au moment où il y a des jeunes qui disent, en un moment, ils disent que non, ils ne peuvent pas rester et qu'ils quittent par tous les moyens, ils cherchent à quitter. Alors, ce n'est pas du tout facile. Nous, ce qui est très important, il faut dire que même s'il y a des jeunes qui sortent du pays parce qu'il n'y a pas... ils n'ont rien à faire là-bas. Il faut reconnaître qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui ont pris conscience que on peut pas fuir ce pays-là. On peut pas, quelle qu'en soit ma distance du Mali, je demeure malien. Moi, je me suis dit que, mais moi, je peux faire quelque chose. Alors pourquoi ne pas le faire? Parfois, je peux dire que il faut pousser les gens à changer. Il y a un problème, c'est ça, changer de comportement, de mentalité. Il faut qu'il y ait, par exemple, au niveau du gouvernement, il faut qu'il y ait une bonne gouvernance. Mais avec les peu de moyens, on demande pas des millions à tout moment. Donc, avec les peu de moyens qu'il faut. Alors, comment faut-il faire pour retenir tout le monde? Alors, c'est vrai, beaucoup pensent qu'étant dehors et à l'extérieur, on peut faire quelque chose pour le pays. C'est vrai, je peux dire que c'est vrai. mais parce qu'il y a ceux qui sont à l'extérieur du Mali apportent quand même des choses au pays, mais il faut pas que tout le monde parte. Il faut que quelques gens restent, mais pourquoi pas la majorité reste dans le pays pour dire que s'il y a un arbre à planter, il faut que ça soit planté par des Maliens. Et s'il y a une route qu'il faut apporter, s'il y a maintenant à apporter une pierre pour une route, il faut, si je peux le faire, mais pourquoi ne pas le faire? Voici des choses que des jeunes surtout peuvent actuellement faire pour qu'il y ait réellement du changement.
Excuse-moi, je voulais juste te demander une chose avant d'écouter le morceau suivant et avant qu'on ne parle aussi avec toi des autres sujets, parce qu'on a dit, bon, il y a l'éducation, il y a l'hygiène, la santé, et j'ai perdu le troisième point, mais ça va me revenir. Mais pour l'instant, ce que c'est vrai que j'ai lu, alors, je ne vois pas trop où, probablement dans le monde diplomatique ou politique, parce que sinon... qu'effectivement l'immigration en Afrique et notamment du Mali ne venait pas forcément en Europe. Et je veux juste te demander dans quel autre pays africain éventuellement peuvent partir des congénères à toi qui...
Les Maliens, ils sont en plus de l'Europe, ils sont aux États-Unis, mm-hmm. ils sont au Japon, ils sont partout, oui. Même en Afrique et en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de Maliens, comme dans les pays comme RDC, Libéria, ouais. Les gens...
C'est plus facile de trouver du travail,
de trouver, par exemple, quand je prends l'exemple d'un médecin, il y a juste des jeunes médecins qui quittent, par exemple, qui partent pour, par exemple, les Libéria ou même les Sénégal tout près. Alors, où les gens pensent qu'ils seront bien payés. Alors,
ça correspond à une réalité, par contre, parce que quand tu dis... brièvement, je ne veux pas être trop longue là-dessus, mais quand les gens viennent en France, c'est vrai qu'effectivement, ils peuvent aider leur famille. En même temps, pour la France que je connais mieux, je ne sais pas comment ça se passe, s'il y a des déceptions en allant dans d'autres pays d'Afrique... Quelquefois, les gens sont déçus aussi, puisque, là, comme tu disais, tu peux avoir bac plus 5 et te retrouver en France à faire des boulots quand même pas du tout adaptés à ta formation. C'est probablement mieux payé proportionnellement, en tout cas. Mais...
Oui, il y a... C'est une réalité que je peux partager avec toi. Et au moment où il y a des gens qui font des études, par exemple, de droit, et de sociologie ou bien d'anthropologie, et qui viennent en France et qui soit ils font les taxis ou ils font ils nettoient ou ils font d'autres choses, il y a des gens qui font ça, mais en un moment il y a des gens qui regrettent, qui rentrent au pays, il y a d'autres qui se mettent à réfléchir, en un moment ils vont voir, est-ce que retourner au pays,
c'est vexant
pour ne pas avoir du travail,
ou
est-ce qu'il faut rester en France pour travailler, même si c'est pas dans un secteur où on a étudié,
et en étant quand même aussi confronté peut-être pas toujours mais enfin souvent au racisme et n'étant pas forcément accueilli très bien, non seulement en fonction de ses capacités professionnelles, mais aussi parfois en étant traité quand même de haut, quoi. Est-ce qu'il existe, bon, j'arrête là-dessus plutôt que je le dis, est-ce qu'il existe au Mali comme dans d'autres pays le phénomène de ne pas vouloir rentrer parce que on est vexé, parce que du coup on est parti et ça a suscité pas mal d'efforts pour payer, pour avoir le visa ou pour passer clandestinement ou pour... et après revenir c'est un échec.
Au Mali c'est un peu rare et il y a des gens, j'ai rencontré des gens, parce qu'actuellement il y a une association au Mali que des jeunes qui sont venus au nord et qui se sont retournés, et là il y a une association qui l'ont créée, et j'ai rencontré les membres, certains membres de cette association, et d'autres sont venus, ils sont Ils sont retournés au pays avec crédit et d'autres avec seulement un seul pantalon. Mmh. Mais actuellement, ils les reprennent leur vie et puis tout doucement. Ils pensent que ce sont des gens qui ont pris vraiment conscience. Ils ont vu que ça ne marche pas ici, mais ils n'ont pas eu honte. Ils sont rentrés et ils pensent que là-bas, ça va marcher. Et surtout, comme je viens de dire, avec... une petite aide du gouvernement, des ONG comme ça, il arrive à faire quelque chose pour ne pas avoir vraiment une déception totale de ceux qui l'ont vécu.
Je voulais revenir sur ce que vous évoquiez là, tous les deux, Zachary et Juliette, par rapport aux diplômes et aux personnes qui viennent travailler en France avec des diplômes étrangers. C'est un vrai parcours du combattant que de faire reconnaître ses diplômes en France quand on vient d'un pays étranger. Par exemple, un médecin qui vient du Rwanda ou d'un autre pays va se retrouver à travailler comme maître-soignant dans un hôpital avant de pouvoir retrouver son statut de médecin, c'est-à-dire en refaisant des études, alors que dans son pays, il est déjà médecin. Et puis, on l'a vu aussi au niveau de l'actualité il y a quelques temps, entre autres, hein, puisque c'est dans le secteur surtout médical, les spécialistes, genre orthopédistes, stomatologues et autres, qui ne sont pas payés du tout le même prix que d'autres médecins français diplômés, alors que leur niveau d'études est le même. Donc ça, c'est encore évidemment une inégalité qui est déplorable dans notre bonne chère vieille France, on va dire. Et puis, sur ce que tu disais aussi par rapport aux jeunes diplômés ou pas, éventuellement, qui arrivent en France pour travailler et qui repartent après au pays. Moi, enfin, de ce que j'ai pu en voir et en entendre, c'est certains ont un constat d'échec par rapport à ça, d'autres non, parce que c'est aussi revenir encore plus fort d'une autre expérience. On est allé voir ailleurs ce qui se passe, on a vu si c'était mieux ou si c'était pas mieux. Et en tout cas, si on revient en pays, c'est qu'on a envie aussi d'y revenir pour y faire des choses. Et par rapport à l'inquiétude de voir des jeunes partir, entre autres du Mali, y a toujours aussi cet espoir-là qu'ils reviennent et que de toute façon, ils pourront travailler au pays, trouver un travail qui ne sera pas effectivement de balayer nos rues uniquement quand ils peuvent être médecins chez eux. Voilà ce que j'avais envie de rajouter, parce que Juliette ne me laissait pas prendre le micro et heureusement François m'a fait signe. Letty, tu peux y aller.
En même temps, je posais des questions, je ne faisais pas un exposé. Nous allons écouter un morceau de Jacques Higelin qui s'appelle, je crois, Mona Lisa Klaxon.
Je ne connais qu'une fille qui se nomme Mona Lisa Klaxon. Elle vit dans une île entourée de crocodiles et de fantômes. Noire comme l'ébène, souveraine, elle joue du trombone. Personne ne m'appelle aussi quand le téléphone sonne. Je sais que c'est Mona Lisa Klaxon. Allô, ça va? Oh, Mona Lisa Klaxon. Comme ça. Mona Lisa Klaxon. Et toi? Oh, Mona Lisa Klaxon, je n'en peux plus. Danse, danse, remue pour moi au téléphone. Oh, 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 Mona Lisa Klaxon. Oh, Mona Lisa Klaxon. Oh, Mona Lisa Klaxon. Oh, Mona Lisa, Mona, 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 Mona. Les soirs où Mona Lisa Klaxon a le cafard, elle s'enferme dans la cuisine avec son grand léopard. Tandis qu'elle entre en transe tout en lui mordillant les chines. De la jungle en démence monte cette incantation divine. Divine Mona Lisa Klaxon. Joue du trombone Mona Lisa Klaxon. Mona Lisa Klaxon. Trombone, Mona Lisa Klaxon. Je n'en peux plus, je suis fou, fou, fou de toi, de la danse, de tes pas. Oh Mona Lisa Klaxon. Oh Mona Lisa Klaxon. Oh Mona Lisa Klaxon. Soudain derrière elle surgit le célèbre King Kong. Il a la bave aux lèvres et la banane comme un canon. Dans les yeux fous du monstre basse une étrange lueur. Esclave de la danse, Mona ne l'a pas senti venir. Il va pour se ressaisir. Oh Mona Lisa Klaxon. Trombone. Oh Mona Lisa Klaxon. Mona Lisa Klaxon. Trombone. Oh Mona Lisa Klaxon. Et moi qui reste là pendu au téléphone. Ne coupez pas.
Ne coupez pas. Mona Lisa Klaxon, Jacques Higelin. Une fois de plus, pour faire plaisir à Dom et Coco de Radio Apple Pie. Et on enchaîne avec la chronique, la seconde chronique de la soirée de Pascal, qui va nous parler de romans policiers. À toi, Pascal.
Oui, de Série Noire. Forcément, vu l'invité Isaac-Harry.
Ah, bien joué.
Très drôle, celle-là, tiens. Donc, on va parler des martyrs, le martyr des Magdalènes, de Ken Bruen, qui est paru en Série Noire, donc. Ça fait un bout de temps, je voulais vous parler aussi de Ken Bruen, qui est un auteur irlandais. Et là, l'actualité m'en donne l'occasion. Alors, il est né en 53 à Galway, un petit village irlandais. Après une carrière d'enseignant en anglais qui le mène en Afrique, en Asie du Sud, en Amérique du Sud, il rentre dans sa ville natale où il décide de se consacrer à l'écriture. Il est l'auteur de ce jour de peu près une dizaine de romans. Il y en a pas mal qui ont été nominés pour des prix. En fait, il a deux séries atypiques. Il est le père de deux séries assez atypiques. Tout d'abord, une série qui s'appelle R&B. En fait, il faut traduire Robert and Brandt, qui sont deux inspecteurs de police londoniens ripoux, brutaux et aux méthodes vraiment borderline, un peu dans l'esprit de Fossoyeur et Cercueil de, ouais, de Chester Himes, avec le même, un petit peu le même humour. Il y a trois titres parus en français: Le Gros Coup, Le Mutant Apprivoisé et Les Maccabées. Mais ensuite, c'est vrai qu'il y a des enquêtes, viennent les enquêtes de Jack Taylor. Alors, une petite définition du personnage de Jack Taylor. Il a du mal à se détacher de l'Irlande, normal. Il aime beaucoup les femmes avec lesquelles il entretient des rapports difficiles, même s'il les respecte. Il est tenace, généreux, fidèle en amitié, lecteur boulimique de polar.
Mais c'est tout toi, Pascal.
Voilà, ah, la bouteille vient de tomber par terre. Et je pense qu'elle n'est pas vide. Donc Daniel, ça baigne mes petits petons, merci.
Voilà, voilà. Bon, c'est pas grave, hein, c'est de la radio. Si vous étiez à la télé, vous verriez une flaque de vin rouge s'élargir sous
voilà,
les...
Voilà, on m'a certainement
Pascal, mais
poigné dans le dos, c'est mon sang qui coule.
Continue, Pascal.
Donc, il est amateur de frites, enveloppé dans du papier journal, et qui baigne dans du vinaigre. C'est le truc qu'ils font les Irlandais, très sympathique. Il est alcoolique, drogué. Il a tendance à se faire virer de tous les pubs où il passe. Il croit qu'il est plus costaud que beaucoup de gens qu'il rencontre. C'est un peu à tort.
Donc il provoque les gens et il s'en prend dans la gueule.
Ouais, il choisit très mal ses amis. Et parfois, il pratique la justice expéditive. Quand il est un peu marre, il est un peu parfois un peu abrupt par moment. Alors donc, c'est un ancien flic qui s'est fait virer de la police, forcément, parce qu'il avait des tendances un peu alcoolo. Il s'est reconvité.
Si tous les flics alcoolo étaient virés de la police.
Oui. Il n'y aurait plus de flics, c'est ça que tu veux dire?
Il n'y aurait plus de police, j'ai rien dit.
Tiens, ça continue de mon sens. D'accord. C'est pas grave. J'ai renversé mon verre. Et donc, il pleut ce soir sur Radio Apple Pie.
C'est le prélude à ma chronique.
Voilà, ça va être ça.
En plus, vous ratez Leslie en train de serpiller sous Pascal, c'est très très beau.
J'espère qu'un jour on aura les caméras, ça sera vraiment sublime. Donc il s'est reconverti dans le privé, même s'il dit lui-même qu'il n'y a pas de privé en Irlande, les Irlandais ne le permettraient pas. Parce que forcément, les Irlandais n'aiment pas qu'on fouille dans leurs affaires, c'est bien connu.
Ils ont bien raison.
Voilà.
Sa vision du monde. Pas les rats, parce qu'on va découvrir les caches d'armes et tout, c'est emmerdant. Enfin, bon. Bref, bon.
Donc sa vision du monde est très noire, parce que bon, il vit vraiment au jour le jour, point, le lendemain, et hop, cul-sac.
En plus, excuse-moi, sa vision est très noire, vu qu'il vit au jour le jour. Bon.
Bah oui, quand même. Donc, après Delirium très mince, un premier roman, Toxic Blues, le deuxième roman, bah voilà la troisième enquête de Jacques Taylor. Alors, c'est commence par Bill Caswell, un caïd local assez vicieux, qui charge notre Jacques, suite, c'est vrai, à une dette que Jacques a contractée auprès du gangster, de retrouver une femme qui aida certaines jeunes filles à échapper aux bonnes sœurs sadiques dirigeant la fameuse laverie qui défraya
Ludo se réveille
dans
les
années 60. D'où...
C'est bien ça, il y avait eu un célèbre documentaire.
Ouais, entre autres, puis il y a eu un film aussi qui s'appelle Magdalene Sisters.
Mais oui.
En fait, bon, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est des jeunes filles, jeunes mères, qui étaient virées par leur famille, parce que ça ne se faisait pas à l'époque, et qui étaient confiées à un espèce de, on va dire, laverie, effectivement, tenue par des bonnes sœurs, ouais. Mais qui était vraiment un truc abominable, parce que c'était traité comme moins que rien. Voilà, ouais, carrément, quoi. C'est vraiment traité comme des moins que rien. Et donc, voilà, donc il engage pour trouver une femme qui est d'âge, soi-disant, les jeunes filles à cette époque-là. En même temps, il y a un jeune homme riche qui aussi l'engage pour prouver que sa belle-mère a tué son père.
Ah.
Voilà, donc il se retrouve avec deux enquêtes que Taylor va plutôt moins subir, parce que lui, il est plutôt dans le brouillard de ses cuites et de la drogue. Et c'est bien là, en fait, la bizarrerie des romans de Brienne, c'est qu'en fait, les intrigues passent en second.
Ah ouais.
Il s'attache plutôt au personnage. Mmh. Il faut dire que le personnage de Jacques Taylor est quand même assez attachant. N'empêche que, mine de rien, en divaguant au fur et à mesure du scénario, il arrive à retomber sur ses pattes à la fin pour clore l'intrigue d'une façon très humour noir, british, qui est vraiment sublime. Alors voilà, bon, on se retrouve effectivement devant un polar, une vision sombre et cynique. Pourtant pleine d'humour, de la société anglaise et irlandaise. Donc, un polar à ne pas consommer avec modération, forcément. Donc, voilà pour ce soir. La pinte est tirée, donc je vais la boire. Je vous laisse dans vos songes éthyliques. Et pour une fois n'est pas coutume, à cette radio, laissons passer une page de pub.
Oh,
avant d'envoyer la musique, vive la Guinness! Voilà.
Bravo.
Merci.
Bravo, Pat.
Le Martin.
Mais n'est-ce pas plutôt ce parfum magique émanant de cette petite boule de kiff?
Oh. Hey! vitrines lunaires reflètent les siennes. Tiens, voilà qui pousse des ailes sous les persiennes. Tiens, voilà que l'étage y remet la sienne. Tiens, voilà que mes soufflés tirent la rengaine. Tiens, 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 tiens. Ébullé sur les volutes de mon stick, fumeuse les idées de mon esprit caustique. Mais voilà que sans crier gare, je m'égare mon vocabulaire et m'égare dans un train d'enfer en aspirant. De drôles de bouffées d'air. Tiens, voilà qu'à l'étage il met la sienne. Tiens, voilà que mes soufflés tirent la rengaine. Tiens, tiens, voilà l'étage il remet la sienne. Tiens, tiens, et aspire ses missives, attire l'arigot. Tiens, voilà que mon esprit lunaire refait des siens. Voilà qui me pousse des ailes sous les persiennes. Mais je dérive et m'esquive sans pipe et mot, et aspire ses missives, attire la rigole.
L'ambiance autour de la table pendant le morceau de musique n'était pas dissipée, mais plutôt collégiale, puisque tout le monde parlait gentiment, sincèrement, enfin tout allait bien. Donc voilà, là on se repose très sérieusement autour de la table, toujours avec Zachary Dumani, qui nous parlait hors antenne. Je dirais de quelque chose d'encore plus important, qui est la volonté de vouloir faire quelque chose et surtout d'y croire pour son pays. C'est-à-dire que Zachary nous expliquait, enfin tu vas mieux l'expliquer toi que moi, à savoir qu'à l'origine tu n'étais pas parti pour faire des études de médecine, mais pour faire autre chose. Et pourtant tu vas être médecin et tu as choisi, quand tu seras médecin, d'officier à la campagne. Donc voilà, je te laisse la parole parce que tu vas bien en parler.
Oui, exactement, et comme tu viens de l'annoncer, c'était pas au début, lorsque je suis arrivé au lycée, je me suis dit que je voulais être avocat. Avocat, j'aimais bien et défendre les gens. J'ai dit que ça, c'est quelque chose qui me va très bien. Et au cours de mes études, j'ai été vraiment un peu frappé par quelque chose qui était la perte de ma maman. On savait, après 48 heures d'hospitalisation, on ne sait pas exactement de quoi elle est décédée. Et puis, alors, ça m'a beaucoup marqué. Et lorsque je suis parti à l'hôpital, je voyais un homme habillé en blanc qui courait malgré tout et qui courait tout pour sauver la maman. Alors cela m'a touché et j'ai dit que pour tout de suite, pourquoi il faut pas être comme ce monsieur là, sauver au moins pouvoir sauver quelqu'un. Et moi qui faisais au lycée la série langue et littérature, et tout de suite j'ai changé. Alors je dis que je vais être médecin. Alors je suis arrivé actuellement vers la fin, et il me reste au moins une année et pour finir. Et comme je venais de dire, il faut d'abord croire à faire quelque chose pour la zone, pour le pays. Alors si je croyais seulement qu'à moi, je pensais que je sais même maintenant que être avocat par exemple, ou bien faire d'autres choses, ou bien être dans le tourisme, je vais être mieux payé que médecin. Oui. Mais sauver la vie d'un homme, j'avais ce plaisir, j'avais ce rêve. Dire par exemple, j'ai prescrit un médicament, ou bien je consulte après une intervention chirurgicale, tu vois un homme comme toi qui vient, qui te dit: ah docteur, merci, je suis guéri. Pour moi, je me suis dit que ça, je me vois comme si je peux me permettre de dire, comme un demi-dieu, ça veut dire. Alors si j'avais cette ambition là, alors lorsque je suis arrivé, même maintenant je le dis, je dis à mes camarades que si je vais terminer, je vais partir dans la campagne. On me dit que mais tu es fou, dans la campagne tu vas aller faire quoi? Tu ne seras même pas payé. Mais je dis qu'il faut rester dans la capitale où il y a des nouvelles technologies, où les méthodes même d'intervention chirurgicale ou des trucs comme ça changent chaque jour. Tu as la chance de participer à des conférences ou de rencontrer des médecins des autres du monde, et qu'une fois que tu es en campagne, tu n'as pas de matériel, tu n'as rien. Mais je dis que oui, c'est vrai, mais la campagne, je l'ai choisie pour être en contact avec ce monde qui a besoin d'un soin.
C'est là que tu seras plus utile.
Voilà. Mmh. Alors, je vois, par exemple, arriver dans un village où avant il y avait, par exemple, 100 décès d'enfants par an, et si je vois que dans le village il y a seulement que 2 ou 3, je pense que je suis parti rencontrer. Et plus qu'un médecin venant de la France, mais j'ai rencontré des hommes qui ont quand même connu quelque chose. Et c'est vraiment l'ambition que j'ai eue pour faire. Alors, ça, c'est, il faut croire, comme je venais de dire, il faut croire qu'on peut faire quelque chose. Alors, et beaucoup de jeunes, actuellement, je pense qu'ils doivent passer par des idées comme ça. Ils n'ont pas besoin d'être médecin, par exemple, pour avoir l'ambition de faire quelque chose pour leur pays. Ils peuvent être enseignants. Pourquoi ne pas dire que je vais aller dans les campagnes? Actuellement, on peut voir que dans les campagnes, il n'y a pas assez d'enseignants, mais dans la capitale, pour une école, on voit un nombre assez important. Bien vrai qu'il n'y a pas les moyens, mais il faut dire que qu'est-ce qu'on peut faire pour l'humanité. C'est une question que chacun devrait se poser pour dire que c'est vrai, je vis là, je vais partir. Mais j'ai servi à quoi? J'ai servi à quoi? C'est très important. Il suffit pas seulement d'avoir de l'argent, avoir une belle maison. C'est vrai, quand on vit avec les humains, il faut avoir un bon rapport. Il faut savoir servir les autres aussi. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Au moment où tu ne sais pas servir, au moment où tu ne sais pas qu'est-ce que tu peux faire, tu dis que moi, je m'en fous, je vis ma vie. Alors, il vaut mieux pour moi de quitter la zone des humains et aller se mettre quelque part. Parce que seul, comme ça, tu pourrais vivre. Au moment où on vit ensemble, alors chacun de nous doit avoir une relation purement, une relation à visage purement humain, et je pense qu'on pourrait faire quelque chose comme ça.
C'est sûr que si tout le monde pensait comme oui. toi, Zachary, les choses iraient mieux. Il y a
pas bah, faut qu'on ait l'espoir.
Merci pour voilà. ça. Et pour parler concrètement de ces actions, donc il y avait de l'éducation, on a retrouvé à force, c'est toi qui as retrouvé d'ailleurs les points qu'on avait évoqués. La santé, tu viens d'en parler un petit peu, avec l'hygiène, dans l'émission précédente en janvier l'année dernière avec Sébastien et Ida, on avait parlé du travail que vous avez fait contre le sida et pour la prévention du sida, contre l'excision. Peut-être tu pourras nous parler aussi de ce que tu disais au niveau hygiène, en plus de cette belle profession de foi que tu viens de faire sur la santé. On a retrouvé le troisième point, donc tu pourras l'aborder aussi si tu veux, qui est de lutter contre la déforestation et pour le reboisement.
Exactement. Et actuellement, par exemple, la zone où je suis, le pays d'Ogon, est actuellement à la porte du désert. Et on est, par exemple, au mois de mai, avril, et on a toute une plaine qui va jusqu'au nord et tout c'est du sable. Alors avant, je suis jeune, moi-même je l'ai vu. Avant, les femmes ne faisaient pas 1 km ou 2 km pour chercher du bois. Actuellement, elles vont au-delà de 5 km pour chercher du bois. Ça veut dire que les gens sont là à couper et les arbres. Et alors, il pleut pas assez et puis les déserts qui avancent. Alors nous avons dit que on peut pas rester aussi mieux. On peut pas leur dire seulement il faut pas couper les arbres parce qu'on n'avait pas d'autre solution. Il y a actuellement une ONG qui leur donne des fourneaux, des charbons pour la population. Mais là, ça ne suffirait pas. Nous on dit que mais quand cette population voit un jour les enfants même du village planter des arbres, mais ils vont se poser la question. Nous partons couper les arbres, mais eux, ils sont là à planter. Ils vont se poser cette question. Alors nous avons dit, il faut passer à l'action. Planter des arbres.
Qu'est-ce que vous plantez comme arbre et comment ça peut être financé, accompagné ces projets?
Oui, et nous avons commencé il y a très longtemps. Il y a des arbres, il faut savoir choisir aussi des arbres qui résistent à la nature. Alors nous avons ce qu'on appelle les nîmes. Les nîmes surtout qui est utilisé pour les traitements du paludisme, c'est très très efficace. Et nous avons ce qu'on appelle les balangeants, c'est les feuilles qui sont vraiment très riches pour la terre. Et nous avons des flamboyants comme beaucoup d'autres arbres. Et là, par exemple, ces deux dernières années, nous avons réellement les soutiens des courtes pousses qui nous avons. Qui nous envoie pas à partir d'arbres des arbres, mais qui nous envoie de l'argent et nous achetons des arbres sur place et nous plantons avec la population, les jeunes qui sortent. Et d'ailleurs, il y a quelques pieds de courte pousse qui ont été plantés, je pense qu'en 2005 ou 2004.
Alors, ils sont grands maintenant, ils sont grands.
Chaque année, on prend la photo.
Alors, cette année, il était là-bas, il a même filmé ses arbres. Et puis, je pense que dans des ans, on peut même s'asseoir sous ses arbres. Ouais. Alors, voilà. Et nous avons dit, il n'y avait pas quand même des agents, comment on appelle, les agents forestiers qui sont là à lutter contre...
Des gardes forestiers. Ouais.
Mais actuellement, ce qu'on a demandé à la population, c'est qu'ils s'organisent. Maintenant, dans beaucoup de villages, où ça c'est des vieux sages qu'on appelle brigade, c'est un peu comme ça qu'on l'appelle, brigade villageoise. Alors, quand on voit quelqu'un qui coupe un arbre, la personne est amendée.
Ah oui.
Alors, on est arrivé à instaurer ça dans beaucoup de villages. Et je pense que ça va aller, mais il y a certains villages où actuellement, il n'y a pas assez d'arbres. Il n'y a pas assez d'arbres. On essaye de planter. Et en plus des arbres qui existent là-bas, par exemple, les baobabs, c'est pas du tout facile de les planter. Alors, il y a des baobabs qui sont partis et qui on n'arrive pas à gérer la situation. Ouais. Mais je pense que avec les actions que nous menons actuellement, les gens vont comprendre que couper les arbres ou des trucs comme ça, c'est vraiment une très mauvaise chose.
Et comme partout, je suppose que évidemment les enfants sont enthousiastes, les jeunes voient leur avenir, comprennent mieux aussi, comme en France, hein, tout ce qui touche à l'écologie, à des changements de mentalité. Et les adultes, ça y est, ça commence à être une proportion quand même de gens qui suivent ça, qui sont pas trop bouleversés dans leurs habitudes.
Non, mais au début, oui, il était bouleversé parce que, mais ils comprennent. C'est les enfants qui l'ont accepté d'envoyer à l'école. Ces mêmes enfants leur reviennent pour dire que papa ou maman, il faut pas faire ça. C'est quand on dit à ses parents, il faut pas faire ça. C'est pas du tout facile pour un enfant de s'exprimer devant les parents et surtout lui faire comprendre qu'il faut pas faire une chose qu'on faisait depuis des années.
Bon, on verra après qu'est-ce qui s'est passé.
Voilà. Alors, mais
bien sûr. Puis, c'est vrai que je pense aussi pour les parents. Enfin, je connais pas franchement du tout la société malienne, à part quelques explications qu'on nous a données. Mais je suppose que comme dans la plupart des sociétés, les parents sont un peu fiers de ce qu'ils savent eux et que. Même s'ils ont envoyé leur enfant à l'école, parfois ils sont surpris que ce soit les enfants qui disent qu'il faut changer. Voilà.
Ouais. Et ça change beaucoup. D'ailleurs, depuis maintenant quelques années, et quand nous partons là-bas, en plus des aides, par exemple, en plus des aides que nous avons à travers des partenaires comme Coup de Pouce ou bien avec
des ONG maliennes qui travaillent spécialement sur le reboisement, par exemple
Pas vers le nord, si tout il y en a, des ONG, mais vers le pays d'Ogon, il n'y a pas une ONG qui lutte contre ça. Mais maintenant, il y a nos parents qui nous accompagnent, qui nous accompagnent à planter des arbres, qui viennent pour lors des consultations, ils viennent très nombreux quand on parle de l'éducation. Et actuellement, c'est nous, quand nous partons, c'est nous qui les appelons pour leur dire venez écouter ce que nous avons à dire. Et là, Sébastien, la ville, et quand on fait ça, il y a presque, nous avons un nombre très, très, très important de personnes âgées qui viennent nous écouter et qui discutent avec nous, qui nous remercient, qui font des bénédictions, ils disent qu'allez-y travailler, ils voient qu'il y a des changements et puis, vraiment, je me souviens pour toute dernière fois, on me disait il y a les vieux qui me disaient que c'est une fierté pour les villages de voir les enfants se réunir et de venir leur dire des choses qu'ils ignoraient. Alors, je pense que ça, c'est des choses qu'on voit très souvent actuellement.
En fait, j'avais une question à poser qu'on n'avait pas prévue. À l'origine, on ne pense pas à tout ça en écoutant les invités aussi, qu'on pense aux questions au fur et à mesure. Je me demandais, puisque, comme tu parlais de planter des arbres, c'est une problématique qui n'existe évidemment pas qu'au Mali, dans pas mal de pays du monde, que j'ai vu à Belayne, par exemple, un village palestinien qui lutte contre le mur, où une des manifestations pacifiques était de replanter ces fameux oliviers qui sont tellement arrachés. Et puis, voilà. Donc, il y a des arbres qui sont arrachés par la guerre, d'autres par les avancées de l'immobilier, d'autres par la désertification. Est-ce que, d'une part, toi, au Mali, et d'autre part, en étant ici pour la semaine de la solidarité internationale, tu rencontres aussi d'autres acteurs, d'autres pays du Sud, comme on dit, enfin, bon, bref, en tout cas, d'autres gens du monde avec qui vous pouvez échanger sur ce sujet comme sur d'autres?
Oui, effectivement, je pense que en venant participer à la semaine internationale de la solidarité, c'est vrai, je venais en France voir des amis, participer à la semaine, mais je me suis dit que j'aurais la chance d'être ouvert au monde. Ça veut dire depuis l'ouverture du forum à Rouen, je pense que j'avais rencontré des gens de, par exemple, comme les gens de la Palestine, du Sénégal et beaucoup d'autres personnes qui venaient de partout. Mm-hmm. Alors, c'est pour moi aussi une bonne occasion d'échanger. Qu'est-ce que les gens font dans leur pays pour changer? Ouais. Ils ont quoi comme moyen? Ils utilisent quoi comme moyen? Alors, moi aussi, je me suis dit que c'est une chance aussi pour moi de venir là, partager ce que j'ai vu, ce que j'ai fait, et venir témoigner. Par exemple, il y a beaucoup qui ne le savent pas, qui savent seulement qu'à travers la vidéo que Sébastien apporte. C'est aussi une manière pour moi de venir témoigner qu'ils font quelque chose, de témoigner de ce qu'ils font là-bas, de les aides qu'ils envoient là-bas. Alors, je vais repartir au Mali avec une chose, d'avoir connu beaucoup de monde.
Mais ça n'est pas encore fini.
Et c'est aussi ça, je rebondis là-dessus, c'est vraiment ça la semaine, hein, c'est permettre aux gens de tout le monde entier de se rencontrer, d'échanger sur leur manière d'agir, quoi.
En parlant du monde entier, j'ai évoqué tout à l'heure, lors de la présentation de nos invités, qu'il y avait aussi autour de la table un ami à toi, John. J'aimerais bien que tu nous le présentes, que tu nous dises qui il est, qu'est-ce qu'il fait et de quelle association il fait partie. Si jamais John a envie d'échanger en anglais plutôt avec Juliette, il est évidemment le bienvenu. Mais je te laisse, Zachary, le présenter.
Alors bon, d'accord, du coup, je dis un premier mot. John, c'est mon micro qui l'arsène. John, Zachary is going to... J'en ai plus, là. Zachary is going to introduce you, and if you want, you can tell us some words to explain about your association and so on. Okay.
Okay. Là, nous avons ce soir John Wood, qui un ami qui vient d'Angleterre, qui habite à Berlin. Et John, je l'ai connu, je peux dire que pour la première fois. Le contact, c'est en 1996. J'étais dans un collège à Pelle, à 50 km de mon village. Et là, j'étais dans une école catholique où on nous demandait de faire les dessins de la vie des femmes de la localité. Alors, j'étais pas nul en dessin. Alors, j'avais dessiné des femmes qui partaient chercher de l'eau, des bois, des femmes qui puisaient de l'eau et puis avec les enfants au dos. Alors, ces dessins ont été sélectionnés et apportés en Angleterre à Christian Aid, alors c'est une ONG anglaise où John et sa femme Mary qui apportait beaucoup de soutien et versait à la mission catholique de Pelle pour construire, pour creuser des puits dans les villages. Il y avait des villages où il n'y avait même pas de l'eau potable. Alors, ça a été la première fois que ces villages ont eu la chance à boire de l'eau potable. Alors, mon dessin est parti en Angleterre. Alors, là, puisque ça a été sélectionné, John et sa femme Mary ont eu la chance d'avoir mon dessin et ils disent qu'ils m'ont contacté. Je ne les connaissais pas, ils m'ont écrit une lettre. Alors, lorsqu'ils ont écrit une lettre, on a commencé à échanger des courriers. Alors, c'est en 2000 qu'ils sont venus au Mali et j'étais vraiment surpris. Et ils sont venus.
Et toi, tu parles anglais pour correspondre avec John, Zachary, comment?
Non, on s'est débrouillé. On avait un dictionnaire à côté et puis on n'est pas très mal dans les gestes. Alors, Et c'est, il va un peu parler. Il, c'est quelqu'un qui est aussi partenaire dans la construction des salles de classe de Tereli. Et que Sébastien pourra bien parler. Et je pense qu'il aura, lui, quelque chose à dire.
Bon, on va essayer. So John, is it possible for you to explain on what project you are working actually in Mali? And
je parle en anglais, s'il vous plaît.
Oh, mais c'est très bien.
Ma femme, Marie et moi, we have supported a non-governmental organization in England for 35 years. Zachary has mentioned it. It's called Christian Aid.
Donc cette organisation, cette association existe depuis 35 ans.
We were involved in an environmental project in the village in England where we live, in Yorkshire, for 10 years. And we raised a lot of money through collecting newspapers and magazines and aluminium cans and other things to recycle.
I translate slowly, with the help of Ludo, maybe, if possible. Donc, dans le village de Yorkshire où vivent Mary et John, ils ont fait une collecte de papier, de canettes, et je ne sais plus à recycler pour aider les projets.
We sent the money to Christian Aid, but because a lot of the money was raised with the help of local school children and their parents, we said to Christian Aid, we would like to know what you will do with the £700 we have raised in 2 months.
Donc 700 livres collectés, si je me trompe, vous me le dites, en 2 mois. Et donc vous êtes demandé qu'est-ce que vous pourriez en faire, qui avait été rassemblé avec l'aide des enfants.
Dans la mesure où ça avait été récolté avec l'aide des enfants et des parents d'élèves, il y avait effectivement cette exigence de savoir à quoi allait servir cet argent.
They said at the time they were raising money to provide fresh and safe water supplies in Mali, in the Dogon area of Mali, and we said we were happy for the £700 to go to Mali to build a well. The well was built through the Catholic mission at Pell, which is near to Tiroli, which is Zachary's village, and Zachary got to know about this money, and he sent drawings to Christian Aid for the people who had sent the £700.
Donc avec cette somme, il a été décidé de creuser des puits, donc d'avoir cet apport d'eau potable pour les villages qui ne pouvaient pas en bénéficier. Ce fut le cas du village de Zachary. And you said that it was the case for Zachary's village. Other parts of the country, or
yes, not just Tiroli, but other parts of the Dogon area, where the supply of fresh water is very important.
Donc, pas seulement le village de Zachary, mais également d'autres villages du pays Dogon dans lesquels l'apport de cette eau potable est particulièrement et crucial. En ce qui concerne le village de Zachary, donc le puits a été entrepris, et c'est à cette occasion que Zachary a fait ses dessins qui furent transmis à cette association chrétienne. Christian Fund, Christian Aid. The name of the association.
Sorry. Christian Aid.
Christian Aid. Yeah.
Zachary sent 3 drawings to Christian Aid for the people who had sent the £700 for water.
Zachary a donc envoyé 3 dessins via Christian Aid à destination de ces personnes qui avaient levé les fonds qui ont permis la construction des puits.
Christian Aid sent the drawings to my wife and to me. That was in 1996, 10 years ago.
Christian Aid a transmis donc ses trois dessins donc à mon épouse et à moi-même. C'était en 1986, soit il y a 20 ans.
Tu avais quel âge, excuse-moi John, tu avais quel âge, Dakari ? Si ça n'est pas trop indiscret.
Actuellement ?
How old were you ?
Quand j'ai envoyé les dessins, quel âge avais-tu ?
Yes, at the time, in 1986.
53 years of age.
C'est pas trop, 56. En 96, là j'ai 27.
Bon, d'accord, on ne fait pas les calculs tout de suite, c'est pas grave, mon anglais.
Je ne me retrouve pas tout de suite dans les calculs.
John avait 53 ans.
17 ans.
D'accord, John avait 53 ans et probablement Zachary, du coup, oui, voilà. Non, on va dire ça. 17, 18, on peut chipoter. maybe we can ask you why. I guess we can imagine you decide to come in France this week, and if you can explain who you want to meet and what you desire to exchange.
I wanted to meet Mary Vaughan from Coup de Pouce, mm-hmm. who I've known for about 1 year through email.
Je désirais rencontrer Marie-Yvonne de Coup de Pouce, avec laquelle je corresponds depuis un an par email.
Coup de Pouce is involved in the International Solidarity Week, and I wanted to come to meet Marie-Yvonne, and I knew that Coup de Pouce had invited Zachary to come to Le Havre.
Dans la mesure où Coup de Pouce était est partie prenante de cette semaine de la solidarité, je voulais donc venir pour rencontrer Marie-Yvonne, et de plus j'ai appris que Zachary était invité par Coup de Pouce pour cette même occasion.
Zachary did not know I was coming to Le Havre. I arrived by train yesterday afternoon.
Zachary n'avait aucune idée de ma présence au Havre, et je suis arrivé en train hier après-midi.
I have not seen Zachary for 5 years.
Ça fait 5 ans que je ne l'avais pas vu.
In 2001, he came to Burley in Wharfdale in Yorkshire in England and spent 3 weeks with us.
En 2001, Zachary est venu à Burley and Wharfdale.
Burley and Wharfdale.
Sorry for the pronunciation. Dans le Yorkshire.
In Yorkshire.
Dans le Yorkshire. Et est resté 3 semaines en notre compagnie. Okay.
Zachary was waiting on the platform at Le Havre station. He thought he was meeting somebody from Coup de Pouce. And I got off the train. Quelle surprise!
Zachary était sur le quai de la gare quand le train est arrivé, mais il s'attendait à voir quelqu'un de Coup de Pouce. Et là, quelle surprise!
What a surprise! Merci beaucoup, John.
Alors, on a eu vraiment l'extrême plaisir d'avoir un échange avec John, et surtout beaucoup d'éclaircissements par rapport à sa venue au Havre et au lien qu'il pouvait avoir avec Coup de Pouce pour les enfants de Daga et avec Zachary. Merci encore, John. Zachary, avant de conclure avec Sébastien sur tous les projets de Coup de Pouce pour Daga, et puis de parler aussi du voyage du mois de septembre, quel va être pour toi le retour que tu vas avoir à faire au Mali après ce séjour en France, et surtout après la semaine de solidarité internationale que tu auras passée ici?
C'est une vraiment très bonne question. Une fois au retour, entre parenthèses, la première des choses, c'est de me présenter au...
Oui, au consulat pour montrer que tu es bien rentré, que c'est voilà, bien toi.
Voilà.
C'est vrai.
Et après, il faut tout de suite que je partage avec des autres membres de l'association. Et on le répète chaque fois, Sébastien, quand il vient, il le répète chaque fois. Ça va permettre aussi de comprendre la lutte qu'ils font ici pour pouvoir nous aider. Ça, c'est la première des choses que je dois dire. C'est vrai, on nous envoie des sommes importantes pour pouvoir... acheter des médicaments sur place ou bien envoyer un enfant à l'école ou de voir le projet de la construction. Je vois exactement ce qu'ils font. Et ça serait une chance pour moi d'aller partager avec les autres membres, avec la population, ce qui se passe ici, quelle lutte ils mènent et réellement pour pouvoir nous aider. Et comme on le dit, au moment où on a peu de force pour grimper un arbre, et s'il y a quelqu'un qui vient te pousser, c'est le moment réel de prendre conscience et de fournir d'efforts pour pouvoir grimper. Sinon, après la personne, je pense que ça devient encore plus difficile. Alors ça, je dois partager cette réalité avec les autres. Et effectivement, je ne vais pas oublier ici que j'ai rencontré des hommes, j'ai rencontré des femmes au cours de la semaine internationale de la solidarité. J'ai vu beaucoup de choses, comme par exemple hier l'entretien qui s'est passé avec la palestinienne ou autre. C'est des idées que je pourrais partager et une fois au pays. Alors je ne vais pas dire que je suis de retour de la France et m'asseoir pour que les gens viennent me saluer, mais j'irai vers les gens pour partager ce que j'ai vécu, ce que j'ai réussi ici et la réalité de ce qui se passe, quelle motivation les gens du Nord ou ceux qui sont venus même d'ici ont, vraiment la motivation qu'ils ont pour pouvoir aider et être solidaire avec beaucoup d'autres pays.
Il va faire une transition voilà, sympathique avec Sébastien.
C'est notre meilleur ambassadeur. Hein. Ça, c'est, y a pas de problème, c'est pour ça que je le laisse parler. Il n'y a rien à dire.
Tu fais bien.
Donc, bon, je vais être concis. S'il y a des gens, alors bon, on a des projets sur 2006, le gros projet, bon, Zachary en a touché un petit mot, on fait ça avec John, ça va être la construction du second cycle à l'école de Tirelli. Ce que je peux dire, c'est que les gens qui se sentent intéressés ou qui ont été captivés par l'intervention de Zachary, on essaie de tenir le site internet de l'association à jour, on donne le maximum d'informations sur l'actualité, les projets. Donc j'invite tous les gens qui sont vraiment intéressés par le Mali à se connecter sur le www.i-daga.org.
Alors, qui est en lien sur le site de Radio
qui est sur là, ou alors tout simplement sur Google on met coup de pouce pour les enfants de Daga et ça marche tout seul. Et puis ben, vous pourrez retrouver Zachary. Alors on fait une intervention aux yeux d'Elsa, toujours dans le cadre de la semaine de la solidarité, le 17 novembre à 20h30. Alors les yeux d'Elsa, c'est au 114-116 rue des Trottes à Wavre, où bon ben voilà, on va faire une petite soirée où on reparlera un peu des actions de coup de pouce, de la vie de Zachary, et puis à la fin de cette soirée, on va faire une petite vente d'objets artisanaux maliens. Donc on a une belle petite collection, donc voilà, ça permettra aux gens de voir Zachary de visu.
Voir Zachary en tournée et en plus acheter des cadeaux de Noël formidables qui viennent du Mali.
Alors, écoute... Et le livre qu'a écrit Zachary, là.
Oui,
on en a parole d'ancêtre.
Pas beaucoup parlé, mais...
Et l'entrée est libre.
Et l'entrée est libre,
voilà,
dit Nicolas.
Et l'entrée est libre, voilà.
Mais d'ailleurs, Nicolas, ne repose pas le micro, si tu veux bien, puisqu'on a commencé avec toi. Je pense que peut-être qu'on va conclure avec toi avant de passer la parole à Ludo pour sa chronique de Cinéma Bis. Je ne sais pas, par rapport à tout ce qui a été dit ce soir et par rapport à cette coordination que fait le CERASI autour de cette solidarité, qu'est-ce que tu voudrais ajouter ?
Que nous, on est vraiment très, très, très contents que Coup de Pouce ait eu l'initiative d'inviter Zachary, puisqu'effectivement, c'est un très bon ambassadeur de ce qui se passe au Sud et de tout ce que font les ONG locales pour s'en sortir, quoi. Donc, nous, on est vraiment contents. Et je voulais dire aussi que la semaine est loin d'être terminée, puisqu'il y a encore beaucoup de choses. Donc le fameux forum des acteurs solidaires à l'Université du Havre, où on attend du monde, où chacun va pouvoir exposer ses activités. C'est vraiment le temps fort, le collectif vraiment est valorisé là-dessus, puisque toutes les associations vont pouvoir se mettre en valeur. Il y a aussi un moment important qui aura lieu à la Galerne, vendredi à 18h, avec un écrivain rwandais qui a écrit un livre qui s'appelle « Inyenzi et les cafards », qui est un livre très très fort. Donc un témoignage sur le génocide. Donc ça, c'est, je vous invite aussi à vous y rendre. Voilà. Sinon, vous pouvez, le programme détaillé également sur le site du CERASI, www.cerasi.fr, et le programme national est sur le site de la semaine, www.lasemaine.org. Voilà.
Tout est dit.
Merci.
Bravo.
Tout est dit, puisqu'on est toujours dans la solidarité et dans les annonces. On a dit que nos prochains invités, c'était le réseau Éducation sans frontières. Une date est prise pour le concert de soutien. C'est le 12 décembre et c'est à la maison de l'étudiant de l'université du Havre.
Et Pascal connaît presque le programme par cœur.
Programme provisoire, certainement.
Certainement.
Donc, la fanfare des Gypsy Kicks, Pigs.
Souriez.
Gypsy Pigs, merci. Les Swanks.
Les Swanks. Anaïs et Rebecca.
Anaïs et Rebecca, effectivement. Qu'est-ce qu'on avait dit d'autre ?
Vous avez gribouillé dans un tout petit coin de page. Oui,
Chantiman Express.
Voilà.
Et
Fenouille
et
les herbes.
Que des gens de la famille, quoi.
Voilà. Bon, de toute façon, c'est pareil, l'information va bien circuler dans le Havre, puisqu'on s'adresse quand même principalement à vous, amis dans le café, plutôt qu'à nos audinotes de partout. Bien que s'ils veulent, d'ici le 12 décembre, rappliquer tous au Havre, ça sera avec plaisir. En tout cas, on remercie mille fois Ida, Sébastien, Nicolas, et puis ceux qui sont venus de loin, John d'Angleterre et Zachary du Mali. Donc vraiment, merci beaucoup d'être venus pour cette semaine de la solidarité internationale et autour des micros de Radio Apple Pie. On donnera encore quelques petites précisions, notamment le programme des rockers en deux cœurs. Mais je pense qu'on va écouter le morceau qu'a choisi Ludo pour illustrer sa chronique de Cinéma Bis.
Thank you.
Michael Kills Judith.
Ah, tant que c'est pas Juliette.
Extrait de la bande originale d'Halloween, le premier, réalisation de John Carpenter et musique de John Carpenter avec ses synthés d'époque. Fait toujours du bien. Donc ce soir cinéma d'horreur. On aime bien dire des horreurs, mais on parle pas souvent du cinéma d'horreur. Ça tombe bien, c'est d'actualité. Ceux qui ont un petit peu été traînés dans les salles dernièrement pour voir les films du genre qui se sont aventurés sur certains DVD ont pu constater qu'après une période de ventre mou, dirons-nous, Scream et ses avatars, Urban Legend, etc.
Ventre percé, surtout.
Ça se durcit très franchement, ça se durcit même à tel point que pour la première fois depuis une bonne quinzaine d'années, parce que je crois que la fois précédente c'était en 89-90 avec la sortie en deux versions de Hellraiser 2 Hellbound, donc pour la première fois depuis l'époque, un film d'horreur il est interdit au moins de 18 ans en France.
C'est pas vrai.
Et ouais. Sur l'avis de la commission de contrôle, alors reste encore au ministre à signer ou à refuser. Enfin, il s'agit en l'occurrence de Saut 2.
Quelle horreur!
3 d'ailleurs! Horreur. T'inquiète pas, Saut 3.
Non, mais je peux en parler si tu veux. J'ai complètement été choquée. J'ai vu Saut 2 la semaine dernière. J'ai échappé au 1 parce qu'il passait pas. Quel bonheur!
Oui.
Et j'ai eu le droit à Saut 2.
Oui.
Je me suis cachée derrière le canapé pendant la moitié du film. C'était pire. C'était pire.
Facile, vu ce qu'on a mangé ce soir, on n'a pas échappé à la saucisse. Hein.
Ah non, c'était. Mais bon, tu vas certainement en parler mieux que moi, mais je peux faire un hit parade des morts les plus tragiques. Non, je peux pas. Elles sont toutes les unes plus horribles que les autres.
Je vais pas parler de Saw ce soir, surtout que j'ai pas vu le 3. Alors pour l'instant, le film n'est pas encore interdit aux moins de 18 ans à l'heure où on parle, hein, donc ne poussons pas de hurlements ni de cris d'orfraie, ça va venir d'ici quelques minutes. Il est clair que j'aurai 15 ans actuellement. Peut-être ai-je toujours 15 ans dans ma tête, je gueulerai, etc. À censure. Ceci dit, on peut très bien comprendre les inquiétudes qui sont exprimées et le mécontentement du distributeur.
Voilà. Mais c'est vague pour nous. Enfin bon, puisque ça n'est pas le propos, on ne sait plus quoi dire.
Non, mais comme j'ai pas vu le film, j'ai pas m'aventurer. On peut simplement dire que les photos qui sont visibles sur Internet et dans certains magazines spécialisés laissent supposer que Saw 3 s'en va après quelques scènes gratinées dans le premier. J'ai pas vu le 2. En l'occurrence, dans le 3, ça a l'air de s'aventurer gaillard du côté du cinéma dit catégorie 3 de Hong Kong. Alors ça, on va en reparler d'ici. Quelques semaines, peut-être même à la centième, ou à la centaine si tu veux, le domaine est vaste.
Là, ce sera plus une chronique. Là.
Donc, à savoir éclairage bleuté, hein, de dominante bleutée et exaction putride. Voilà. Bon, ceci dit, il n'y a pas que Saw 3 qui tape fort. Ce soir, hommage à deux films d'horreur qu'il est très important de voir. Donc un qui est hélas pas sorti en salle, et c'est totalement incompréhensible, et un autre qui est sorti en salle, mais qui hélas n'est pas passé par Le Havre, pour changer. Donc, celui qui nous débarque directement en vidéo, c'est Au service de Satan. En anglais, Satan's Little Helper. De Jeff Lieberman. Alors Lieberman, on le croyait quasiment mort tout du moins pour la profession, hein. Il avait signé une poignée d'œuvres mémorables en son temps, hein, dont notamment le Blue Sunshine, le rayon bleu, à ne pas confondre avec le rayon vert d'Eric Rohmer, rien à voir, hein, assurément. Le fameux La Nuit des Vers Géants, hein, voilà, dont l'affiche mélangeant. La fiche grouillante, dirons-nous, de corps humains et de divers lombriques m'avait plus durablement traumatisé que le film. Et Jeff Lieberman, donc, qui après, m'a-t-on dit, une participation au scénario de l'Histoire sans fin numéro 3, bah, il faut bien vivre, hein, revient en 2003 avec ce Au service de Satan. Alors, très simplement, la base, Satan's Little Helper, c'est le titre d'un jeu vidéo fort prisé du petit héros de notre film, le jeune Doug.
C'est un vrai jeu ou c'est un jeu fictif?
C'est un jeu fictif. D'accord. Alors, si tu veux, en bonus du DVD, t'as le jeu fictif inclus. Ah. Où toi aussi, tu peux te prendre pour Satan et sa petite main. Voilà, et provoquer des ravages sur ton passage dans les rues de la ville, voilà. Donc le gamin adore ça. Et le gamin a, comme qui dirait, un petit déficit en matière d'appréhension de la réalité et de la fiction.
Comme Jérôme Serrault.
Je ne me permettrai pas.
Je ne peux pas critiquer son plus fervent admirateur.
Moi, je ne critique pas un spectateur dans Enzo The Razor numéro 2. C'est éthique. Voilà. Donc, voilà, un petit problème pour trancher entre la réalité et la fiction, surtout que nous sommes le jour d'Halloween et qu'un tueur en série sévit dans le voisinage de manière très artiste. Et c'est là où le film est évidemment très intéressant, c'est que ça a très peu à voir avec le film de Carpenter, auquel on pense évidemment, mais ça en prend le contre-pied total, à savoir que le tueur de Carpenter, c'était la main glacée de la mort qui s'abattait, il était partout, mais on le voyait peu, très très peu. Tandis que là, notre brave tueur en série, avec ce fabuleux masque, ah oui, grandiose, donc
un rictus.
Moi aussi j'y ai cru.
Voilà, avec ce rictus qui lui déforme le visage, lui expose ses forfaits, c'est-à-dire qu'il ne se contente pas de frapper, il emmène aussi les cadavres sur le pas de la porte, il les dispose artistement sur les chaises. Voilà, il fait ses petites mises en scène, évidemment ça frappe l'imaginaire du gamin. Corrélation, et là il me dit ah ouais, attention. Est-ce encore un pensum sur le danger de... Alors moi, je connais, hein, je sais, la réalité virtuelle, le réel, c'est dangereux, hein, faut pas mélanger les deux. Après, c'est la tuerie de Columbine, etc. Hein, voilà, il y en a qui s'y sont risqués déjà.
C'est ton ami Philippe Val, hein, il pense qu'à la suite de Scream, il y avait des meurtres. Hein. Ce défaut-là aussi.
Primo, je ne connais pas Philippe Val. Oui. Bon. Ensuite, voilà. Ensuite, le film n'a rien à voir avec Scream, justement. Puisque, bon, évidemment, le gamin s'entiche donc de ce démon qui en fait fait figure de grand frère farceur, mais de farce macabre, s'entend, est totalement irresponsable. Du style, allons faire les courses au supermarché. Hein. Et en rentrant, le gamin monte dans le caddie et sur le parking, les voilà en train de percuter divers usagers. Hein. Comme au jardin d'enfants.
Bah oui,
tout cela est très ludique. Et le gamin s'en va ramener le tueur chez lui. Ah ouais. Après que le tueur ait Oxy, le petit copain de la grande sœur. Hein, mm-hmm. Voilà. Ah oui, évidemment. Le gamin est très content d'ailleurs parce qu'il est assez jaloux.
C'est des thématiques récurrentes ou quoi? Parce qu'à propos de la ramener, moi je la ramène. En fait, je pourrais pas supporter de voir le film, je pense, vu ma grande sensibilité. Mais il y a des thèmes récurrents comme ça, non? Les petits couples d'amoureux sont toujours un peu détestés par les plus jeunes qui leur souhaitent les pires choses, non?
Ouais. Non, mais c'est-à-dire que c'est un film qui à la fois joue avec les clichés du genre, mais évidemment, pour jouer avec, est obligé de les faire figurer à un moment. Alors, ce qui s'écarte des clichés du genre, et tout du moins du genre tel qu'on l'a vu ces dernières années, c'est que, un, déjà, on notera la participation en tant que mère de famille de Amanda Plummer, grande actrice américaine à fleur de peau et qui jantait dans l'éternel. Si vous rappelez le début de Pulp Fiction, la braqueuse, tout le monde les mains en l'air, etc., c'est elle. On se rappelle également d'elle dans Ken Park de Larry Clark, en tant que mère sordide, là à nouveau, puisqu'elle demandait à son fils de lui couper les ongles des orteils. Enfin, voilà.
C'est vrai que c'est sordide.
c'est extrêmement. C'est un film extrêmement. Enfin, où les parents ont un rôle extrêmement sordide. Voilà. Et là où ça s'écarte de Scream, c'est que c'est une comédie, c'est voulu comme une comédie horrifique, parce que, évidemment, le monstre. Il est pas hors champ, il est là en permanence. Et pendant la majeure partie du film, la mère et la petite jeune, la sœur, donc, le prennent authentiquement pour le petit copain qui surjoue un soir d'Halloween. Alors évidemment, avec toutes les situations cocasses que ça peut entraîner, c'est vachement drôle, là ça commence à plus être drôle, là tu vas arrêter, non mais c'est bien toi. Et évidemment là la porte s'ouvre et voilà.
Avant celui qui devait être celui-là apparaît et donc
il apparaît à la fin, mais la porte s'ouvre de manière à maintenir le suspense quand même, voilà, en permanence. Et sans trop en dire, et là où l'élément de comédie est quand même très très fort, c'est que comme c'est Halloween, évidemment, il y a des masques et permutation des masques, et après avoir adopté ce masque aux dents particulièrement jaunâtre et carnassière, notre gaillard démasqué s'en va prendre l'allure de...
On est censé avoir suivi et dire
Jésus.
Ah ouais, bah non, on peut pas. Ah, Jésus, bah,
Satan.
Voilà. Et alors, deux grands frères irresponsables, voici notre tueur qui devient figure protectrice avec laquelle on peut se balader dans la rue pour le gamin, évidemment, parce que le gamin prie très très fort pour que Jésus arrive une fois qu'il réalise sa mégarde. Mmh. Et Jésus, évidemment, poursuit la quête meurtrière de Satan, ce qui permet, et c'est
une justice,
voilà, quoi. et c'est là où réside aussi la subversivité de ce type de film d'horreur, puisque la comédie comme l'horreur obéissent à une logique qui leur est propre, leur permet quand même ce dialogue et sa conclusion renversante, assez peu usitée dans le cinéma américain actuel. Donc la grande sœur s'adresse au gamin, hein, parce que bon, méli-mélo, défenestration, voilà, divers coups de couteau, trip à l'air, etc. Il ressemblait à quoi ? Ben, à Jésus, quoi. Il était déguisé, mais il est réel, parce que le sang est réel. Il saignait de la main ? Oui. Quand vous jouiez à bonbons et bâtons, Satan a-t-il tué le père d'Alex ? Bah, il a jeté un gars par la fenêtre. C'était une maison en briques. Cet homme était le père d'Alex. Et Jésus et Satan ?
Qu'est-ce que je t'ai dit ?
Et pourtant, c'est rare qu'on dise Jésus l'habite. Mais bon.
Voilà. Le film... Cohabite, pour reprendre le cri d'amour. Voilà. Voilà. Le film est rempli de ce mauvais esprit qui contredit totalement l'aspect a priori politiquement correct qu'on pouvait redouter. Et ce qui est doublement fort, c'est qu'il y a le commentaire audio du réalisateur et Jeff Lieberman, dont on pourrait s'attendre éventuellement pour apaiser les esprits, on pourrait s'attendre à ce qu'il s'excuse, qui demande un peu à tasser l'affaire. Bon, là, on a fait preuve un petit peu de mauvais goût. Pas du tout. Le bougre surenchérit avec un humour noir et à froid absolument réjouissant. Absolument réjouissant, et je n'en citerai qu'un exemple, car l'heure tourne. Il y a une scène... Je précise qu'aucun animal n'a été blessé durant le tournage.
Ah, ben voilà, moi c'est tout ce que je voulais entendre.
Des humains.
Pas grave.
Il y a néanmoins une scène où notre tueur, devant témoin, est pris de la volonté d'écrire sur un tableau avec un chat.
Oh.
Voilà.
N'en prenez pas de la graine, les enfants, ni les grands d'ailleurs.
Donc il écrit, je ne sais plus, boue ou quelque chose dans le genre, donc il macule le tableau, quoi. Extrait du commentaire audio. J'ai demandé spécifiquement que le chat ait une clochette à son collier. Je voulais qu'on l'entende tinter quand il écrit avec. Les défenseurs des droits des animaux ont réagi nombreux à cette scène. Je leur ai dit qu'on avait tué qu'un seul chat, car on n'a fait que 9 prises. Mais ils m'en ont quand même voulu.
Ils ont tué un chat et tu nous dis qu'il ne s'est rien passé avec des animaux ? Crapule.
Mais non, mais ils ont... Mais non.
Mais comment non. Ça, mais non, mais...
Mais bien sûr que non. Évidemment que non.
C'est la clochette.
Mais non, mais tout le commentaire est comme ça.
D'accord. Ah oui, ok. Ah, oh.
Voilà.
Oh, ah, oh, ah.
Faut l'excuser.
Et c'est...
Pascal m'a soufflé la solution, mais en même temps, si vous ne l'avez pas trouvé, je vous la donnerai pas.
Voilà. Et moi, ça me... Cet humour pincé... qui ne regrette rien, sauf à un moment il se dit ouais non là peut-être faudrait peut-être dire là ce qu'on est en train de montrer à l'écran c'est ce qu'on voudrait peut-être dénoncer, ouais mais bon finalement non, voilà. Et ça, je trouve ça très très bien. Autre exemple, très bref. Le deuxième film de ce retour en force du film d'horreur, et là c'est un film qui me paraît nettement supérieur, je vais même aller plus loin, je vais même dire que c'est un quasi chef-d'œuvre.
En plus, tu sais, la fin de l'émission t'appartient, donc désormais, non, pas... si tu veux poursuivre jusqu'à 2h du matin hors de fermeture de l'Apple Pie. Non.
Très brièvement, il faut le signaler, bon, ceci dit, lui a déjà eu une couverture presse plus importante puisqu'il est sorti en 2004. C'est Calvaire, qui est un film belge de Fabrice Duvels, un premier long métrage. Il a fait quelques cours auparavant. Alors Calvaire, c'est ce qu'on appelle un survival. Survival, j'en ai déjà parlé, c'est La colline à des yeux, c'est Massacre à la tronçonneuse, c'est The Descent, enfin c'est cette légion de films qui déboule sur les écrans actuellement. J'ai été saturé du survival, je découvre Calvaire, et c'est absolument magnifique. Et c'est absolument magnifique, là aussi le réalisateur a une conscience aiguë des codes du genre, il en a beaucoup vu, ils sont présents, mais ils sont à l'arrière-plan et ils détournent. Et ils détournent pour donner une œuvre assez magnifique. Alors ça commence... Je sais que tu vas aimer parce que je sais que tu aimes la chanson française.
Ça commence bien. Je suis sûr que ça va moins bien finir, mais bon.
Ça commence par un chanteur populaire, itinérant, qui fait les supermarchés, les hospices, qui est incarné par Laurent Lucas, l'excellent Laurent Lucas, qui était le...
Harry, un ami qui vous veut du bien.
Voilà, c'est lui qui était
poursuivi par le mauvais Harry qui réglait tous ses problèmes.
Par le sens aigu de l'amitié.
Laurent Lucas qui est à vrai d'ailleurs et qu'on ne désespère pas d'interviewer MC4, entre parenthèses.
J'en serais ravi. Laurent Lucas joue donc un personnage qui s'appelle Mark Stevens, qui donc, le film commence, donne sa représentation dans un hospice. La scène, l'éclairage tout du moins est très glauque. Ceci dit, c'est le chef opérateur, c'est Benoît Déby, qui avait déjà travaillé avec Fabrice Duvel, ce réalisateur, qui bosse aussi avec Gaspard Noé. Voilà, donc on ne saurait s'étonner.
Gaspard Noé.
Et il entonne une chanson magnifique que je vais... Alors, tu sais que je chante...
Que tu vas nous interpréter ?
Je chante fort mal, alors peut-être quelques envolées lyriques à certains moments, je ne sais pas. Un jour, la vie devient la survie. L'argent s'en va avant la fin du mois. Quelle drôle d'époque, tout se disloque, puisque l'amour est notre seul recours et que l'union fait le lit des millions. Je te propose un plan tout rose. Amen, amen, ta semaine avec la mienne, ça fera pour toi et pour moi une bonne quinzaine.
Ah, c'est beau.
On mettra en laisse la bourse et la tendresse. Que du velours qui pourra durer toujours. Amen, amen. Ta semaine avec la mienne, ça fera pour toi et pour moi une bonne quinzaine. Nous serons ensemble la tête et les jambes. Toute la vie, nous ferons 50-50.
C'est très très beau.
Alors c'est très très beau et en fait ces paroles sont authentiques.
Ah, ça fait plus peur, mais
enfin... Ça fait plus peur.
C'est pas... On est de la génération qui a connu Sheila, tu sais.
Alors, ce sont les paroles d'une chanson d'un dénommé Marc Arian, alors, qui aurait été un chanteur connu en France. Il aurait chanté Cathy, alors je ne sais pas, c'est des amateurs de variété française qui se manifestent, et qui a connu une carrière donc, en Belgique, effectivement, et que le réalisateur a découvert par l'entremise de personnes un petit peu agitées, comme Benoît Poulvord, qui est un grand fan. Hein.
Ah, non, mais ça ne nous étonne pas de lui, mais
donc,
en revanche...
C'est pour situer l'activité de notre chanteur, qui va se retrouver plongé dans un cauchemar intégral, dans la mesure où c'est... On projette beaucoup sur lui, on projette énormément. Ça va de la spectatrice de l'hospice qui s'aventure dans sa loge en croyant qu'il s'adresse directement à elle lors de son récital.
Ah, c'est ça.
C'est aussi la directrice de l'établissement, Brigitte Lahaie.
Tu veux dire Brigitte Lahaie, l'actrice qui joue le rôle de la directrice d'établissement ou elle s'appelle Brigitte Lahaie ?
Non, l'actrice est Brigitte Lahaie.
Ah, d'accord.
Qui ne veut... résolument pas le voir partir. Elle a un rôle très très court, quoiqu'elle réapparaisse succinctement après. Elle est très bien. Elle est très bien, effectivement. Et le gros problème de ce chanteur, donc alors évidemment selon le schéma rituel, hein, il part en tournée à l'autre bout du pays, panne sur la route, il arrive dans une auberge, l'aubergiste est très cordial, il l'invite à goûter sa bonne cuisine, l'aubergiste c'est Jackie Berroyer.
C'est l'auberge rouge, non, quand même pas.
Jackie Berroyer qui est persuadé de partager au moins un point commun avec notre chanteur, c'est son passé d'humoriste, aujourd'hui rejeté. Et forcément, un chanteur des ritournelles, ça ne peut lui faire que chaud au cœur dans la mesure où sa femme l'a quitté il y a longtemps déjà. Eh bien sa femme, le chanteur, va la remplacer.
Littéralement ?
Littéralement.
Pourquoi pas ?
Est-il besoin d'en dire plus ? Est-il besoin de dire qu'ultérieurement dans le film, on croisera quelques villageois qui, contrairement à Jambon, qui chante les amours canins, sont eux plus portés sur les amours porcines ?
Aïe, pauvre bête !
Que parmi ces villageois figure l'excellentissime Philippe Naon, autre habitué des films de Gaspard Noé, mais qu'on a pu également voir dans Le Pacte des Loups, qui lui aussi a le cœur lourd. Que la fin sera littéralement infernale. Ce qui s'appelle vraiment infernal, avec une audace de mise en scène lors d'un plan séquence que je ne dévoilerai pas et qui veut représenter l'enfer à la manière des peintres flamands, et je peux te dire que c'est monstrueux. Et au niveau mise en scène, justement, c'est un film qui est extrêmement audacieux parce que pas de musique, si ce n'est la chanson et une scène d'un surréalisme achevé, et là il faut laisser la surprise dans un bar, surréalisme absolument extraordinaire, donc musique intradiégétique, donc qui se déroule durant la narration, aucune musique autre.
Comment t'as dit, intra-quoi ?
Intradiégétique. Une bande son extrêmement travaillée, mais aucune musique parasite, contrairement à un grand nombre de films américains où t'ouvres une porte, c'est la fin du monde, voilà.
Même de films en général, il y en a toujours trop de la musique dans les films, selon moi.
Que la mise en scène s'attache à un certain réalisme, mais archi-stylisé évidemment par le scope et la photographie. Que, et c'est aussi ce qui permet d'éviter de tomber dans les travers de ce type de film, les personnages tout désespérés. Tout désespérés. Et névrotique, puissamment névrotique qu'il soit, garde une patte humaine qui est importante, qui est très importante, qui fait que, bien que nous soyons un survival, conscient de ses racines, on ne sait jamais réellement ce qui va se passer, et on est extrêmement heureux de morfler. Et on est grandement reconnaissant à Fabrice Duvels, qui signe là un premier long métrage, et à mon sens, quasi premier chef-d'œuvre.
Bon bah bravo. Bravo à toi en tout cas. À eux on ne sait pas, mais bravo à toi pour l'instant. Merci Ludo. Cette nouvelle formelle n'aura pas encore permis à nos auditeurs dans le bar de regarder l'excellente émission, je le redis, de Frédéric Tadéhi qui s'appelle Ce soir ou jamais sur France 3 et qu'il faut absolument soutenir.
C'est sûr que regarde l'émission.
Bon, je vous en prie. Donc, il faut regarder France 3 ce soir ou jamais. Et aussi, avant de terminer, je l'avais promis, donc je vais tenter, du moins, de le faire. Le programme pour vous, amis dans le bar, parce que les audinautes, je ne sais pas quand est-ce qu'ils entendront ça, mais peut-être que oui, ils l'entendront sur Radio Apple Pie en ligne très bientôt. Des rockeurs en du cœur à Le Havre, à Mamie Blue, comme d'habitude. Donc, pour faire plaisir à tous les petits enfants, un jouet, un jeu. On ne me prend pas en photo avec des lunettes, Sylvie. Un jouet, un jeu, un livre même. Pourquoi pas un film aussi. Enfin, voilà, apportez tout ce que vous voulez que les Restaurants du Cœur redistribueront aux familles. Avec le vendredi 1er décembre, Horror Show Destruction, qu'on vous a passé il y a 15 jours. Tribute to the Ramones, le même soir. Le samedi 2 décembre, Les Rascas. Le dimanche 3, L'Atelier du SEM. Et suivi de Olivier Durand et les Normandie All Stars. Mystère, qui peuvent bien être ces Normandie All Stars. La semaine suivante, le week-end suivant plus exactement, vendredi 8, Partners in Crime, avec une chanteuse formidable et qui a le bon goût d'adorer Patti Smith, suivi de Dominique Caumont. Le samedi 9 décembre, Jambon, qui sera notre invité, entre autres, pour la 100e émission publique de Radio Apple Pie, le 13 décembre. Donc Jambon et un costard pour deux. Et le dimanche 10 décembre, comme d'habitude, je vous rappelle que le dimanche, c'est à 18h et non-fumeur, avec tous les petits enfants et tout. Une soirée cabaret avec Chantiman Express, Korat et Chantaboun. Korat et Chantaboun, ouais ouais. Teyotte de la Muppet Chaude, Les Pieds au Mur et Mlakali Enko. Voilà. Mlakali Enko, pardon. Merci Leslie. Et toutes ces infos, bien entendu, grâce à Pierre Ouattivi sur le site de Radio Apple Pie. Encore merci à Dom et Coco, à François La Technique, à nos invités de ce soir. Zachary, encore merci. John, Seb, Ida, Nicolas, on vous remercie tous et puis...
Une petite pensée pour finir. Bah, il soit qui mal y pense. Ah.
Une brune à caractère que j'allume quand je le veux, mais elle a la toux dans son jeu et m'étouffe sans en avoir l'air. Dès que je suis trop remonté, ma gitane me fait descendre. Quand je suis prêt à descendre, c'est alors qu'elle me fait monter. Que son corps était à vendre, je n'aspirais qu'à l'embrasser. Malgré mes discours enflammés, je ne savais pas quel bout la prendre. Dès que je suis trop remonté, ma gitane me fait descendre. Quand je suis prêt à descendre, c'est alors qu'elle me fait monter. Mes lèvres attisent ses désirs, son corps commence à s'embraser. C'est alors qu'elle me fait monter et je brûle de l'embrasser jusqu'à mon tout dernier.